Les Cascodeurs Podcast, épisode 214. L'édition barbecue. Enregistré le 5 juillet 2019.
Pour soutenir les cascodeurs, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/lescascodeurs pour faire une petite donation mensuelle. Merci à vous. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 214. Nous sommes le 5 juillet.
Les cascodeurs à la campagne.
Les cascodeurs à la campagne.
En vadrouille.
Tous les cascodeurs.
Tous les cascodeurs.
Faites du bruit les cascodeurs.
Ouais, ouais.
Donc on fait plus de bruit qu'en général quand on a 100 personnes dans la salle.
Ouais, on est super fort.
C'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, on est tous autour du micro.
Ouais.
Merci Vincent.
Ouais, merci Vincent. Merci d'avoir accueilli.
Merci Vincent.
Merci à vous.
Il nous a invités.
Dans la campagne.
Dans sa campagne. Loin de Paris.
Eh ben, on a un gros épisode au final, malgré le...
La chaleur estivale. Ouais. Le réchauffement climatique.
Je vais pas dire ça, mais on va dire malgré la chaleur. Donc on va commencer par les news, vous savez comment on fait, on démarre au niveau langage et puis on monte les stacks et puis après on va vers de la société en général.
C'est le métastack là.
Métastase.
C'est mieux que métastase.
Pardon.
Ça commence pas.
On n'a pas beaucoup bu, hein, à part Antonio qui s'est tapé la
comment
bouteille.
Comment
Donc, langage, on va commencer par les langages. Donc, le JDK13 est en phase de...
Lancement.
De fin
de landing, d'atterrissage.
La première phase.
Ramp down.
L'atterrissage. Ouais, alors ouais.
Et donc
Bientôt.
Le set de feature est gelé, là, c'est bon. Ouais. Il n'y aura plus d'autres JOP d'intégrer. Donc, pour rappel, il y a la réimplantation.
Mais tu dis pas JEP. Des JEP. Tu dis pas JEP.
Oui,
JEP.
Bon.
Ça fait comme JEP, tu vois. C'est plus.
C'est moi 4x4. Ou vous êtes un petit peu intenable.
Un peu. Ouais. Allez, c'est la chaleur.
Ça va être long.
Toi, au moins, t'as les ventailles. Nous, on l'a pas.
Puis moi, j'ai pas vu. Donc, sont inclus la réimplémentation de la socket API, la preview des nouvelles switch expressions dont on a déjà parlé, et puis des text blocks, les archives dynamiques CDS, l'allumération de mémoire non utilisée par le ZGC, pardon, et je fais du bruit avec l'éventail. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui est dedans.
Et en tout cas, disponibilité finale prévue pour mi-septembre.
17
septembre 2019. Non, ça c'est les anciennes versions approches.
Mais ils s'y tiennent bien, du coup, au rythme.
Ouais, ça tient bien. Après, ouais.
C'est fort.
C'est agile.
C'est
agile. Très bien.
Ensuite, il y a alors, Alexandre Chipilef qui était chez Oracle et chez Red Hat maintenant, un gars plutôt bas niveau qui fait un blog assez intéressant quand on voulait vraiment savoir les détails de la JVM. Il a sorti le flow des commits donc de upstream OpenJDK donc sur Mercurial, parce que ces gens-là utilisent Mercurial, et comment ça descend. Alors, ça arrive dans le, notamment les backports dans les trucs de maintenance. Après, il y a
signalé qu'il a fait un super graphe. C'est hyper visuel. On vous le conseille. C'est très très beau, coloré.
Et donc, il explique que, après, il y a les distributions qu'on leur downstream, c'est-à-dire qu'ils vont aller dire, moi, distribution, je reprends tous les patchs ou une partie des patchs ou un certain nombre de choses. Ensuite, il y a les repositories dits de sécurité sur lesquels les gens travaillent quand il y a des bugs de sécurité qui sont après mis upstream et après que tout le monde ait en général réalisé la version qui corrige les problèmes.
Donc, ça, et c'est du coup, sur des repositories pas accessibles au public, on va faire en sorte qu'on travaille en toute sécurité.
Exactement.
Sur des patchs de sécurité.
Sachant qu'il y a un groupe commun, OpenJDK Vulnerability Group. Donc, ouais. C'est un travail inter-entreprise.
À plusieurs. Voilà. Et puis aussi un peu le distinguo entre les short-term et long-term support. Il fait bien aussi le distinguo.
Oui, il a fait deux schémas séparés, effectivement.
Enfin, en dessous, c'est pour Red Hat. Au-dessus, c'est pour Oracle.
Non, c'est pas ça.
Je caricature un peu. Java 8
oui,
et 11, c'est
oui,
Red Hat
ce que tu veux dire.
Qui les maintient. Donc voilà, c'est pour ça que je dis en haut c'est Oracle, en dessous c'est Red Hat.
Ouais.
Tu es pas d'accord?
Et donc sur le premier, non, mais ce que j'essayais de me rappeler, c'est qu'il y a donc entre l'approche short term et long term, justement, il y a une différence. Il y avait une grosse différence et je crois que c'est justement Oracle qui dit qu'ils font leur propre système de sécurité pour du JDK 8, mais qu'ils ne prennent pas. On ne sait pas en fait s'ils prennent les trucs upstream et qu'ils les réappliquent, s'ils ont leur propre page. Donc là, il y a il y a une vraie divergence qui est en train de se créer au niveau du, des anciens JDK pour ce qui est Oracle payant JDK. Voilà, 8 et 11, où on sait pas trop ce qu'ils font en fait.
Donc, mais ce qui est marrant, c'est que dans le graphe, on voit qu'il y a des security work partout et des, des vulnerability group partout. Hein.
C'est le même.
Le JDK, il est truffé de trous, tu veux dire.
Truffé de trous.
En mais tout cas, on fait gaffe. Les gens qui bossent, ouais.
C'est comme ça maintenant, ouais.
En tout cas, jeter un œil au petit schéma, il est hyper bien fait et explicite. Ouais.
Ensuite, il y a un article, alors c'est un peu promotionnel, hein, mais c'est sur le temps de démarrage, le warm-up, comme on dit, d'application sur la JVM, et notamment les différences qui sont faites avec Azul par rapport à la version Hotspot. Donc, je vais vous résumer, vous pouvez aller lire l'article, donc ils expliquent qu'ils sont mieux, évidemment, parce qu'un des problèmes, effectivement, de la JVM, c'est qu'il y a un temps un petit peu lent de chauffe. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un peu compliqué. Mais déjà, il y a la notion de on démarre en interprétant, puisqu'on a le bytecode. Ensuite, on a ce qu'on appelle le C1, le compilateur C1, qui était l'équivalent du mode client, voilà, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler.
Client.
Et il y a le mode C2, qui est le compilateur qu'on appelait serveur avant. C'est comme serveur.
Ouais.
et qui va, après, au fur et à mesure du temps, voir vraiment ce qui est utilisé dans l'application et du coup arriver aux performances optimales. Et du coup, il y a une courbe un petit peu lente, un peu logarithmique d'optimisation. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que, l'appli au début, elle fait pas forcément la même chose qu'après, en fait,
en vitesse de croisière, quoi.
Ouais. Et donc Azul, ils ont fait deux choses pour essayer d'améliorer ça. Déjà, ils font une approche en double run. Donc il y a un premier run qui va écouter les métriques, donc faire l'approche classique dont vous a parlé, mais enregistrer les statistiques, les méthodes qui ont été optimisées, les méthodes qui ont été désoptimisées parce qu'au final c'était pas une bonne idée, etc.
Pour pouvoir les rejouer au prochain démarrage.
Exactement. Ils capturent cette information et comme ça ils les rejouent direct au démarrage pour gagner tout ce temps d'analyse finalement.
C'est assez smart, hein.
Ouais, en fait, bon, c'est pas les seuls. Il y a Oracle qui a un truc comme ça aussi dont ils en parlent depuis un certain temps. Mais c'est intéressant, voilà, quand on est capable de dire je fais tourner l'application puis après je le passe en entrée les résultats de ce truc-là pour le faire tourner plusieurs fois, c'est une approche intéressante. Et le deuxième, c'est ils cachent la compilation. Alors, ils expliquent pas forcément super bien dans le détail, mais ils expliquent que c'est pas forcément simple de cacher la compilation, puisque ça pourrait un peu aller à l'encontre des spécifications Java. Et donc, ils cachent la compilation en fonction avec leurs paramètres d'entrée exacts. C'est-à-dire, je suis en train de je saurais pas vous lire là parce que j'ai vu l'article sous les yeux, mais en tout cas ils garantissent la sémantique de la spécification Java tout en cachant ces optimisations. Donc la chose est déjà compilée comme quand vous utilisez un cache normal au lieu d'aller sur la base de données. Donc c'est
ils appellent ça le compile stash.
Ouais.
Compile stash.
En fait ils font la comparaison sur le bytecode qui a été compilé, sur les requêtes qui sont envoyées à la JVM et les réponses qui sont reçues.
Ouais.
Et si tout est identique, dans ce cas-là, ils prennent le cache. Et si c'est pas le cas, ça repart dans Falcon, dans le C2.
Ouais, Falcon qui est l'alternative.
Voilà, qui est l'implémentation.
Stash, 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 ça n'a rien à voir avec Michael Young et tout ça.
Non.
Non, je pense que
je sais pas si
c'est un peu la même idée que Git stash, tu vois, en gros, ils les mettent de côté, je sais pas.
Tu crois que je peux faire un stash des blagues
Non, mais je pense que je veux dire stash, en fait.
Ah, là, pour les popper.
Non, c'est un endroit pour regarder un stash et regarder des choses, quoi.
Bien, je ne sais pas.
Alors, il nous a cassé.
Nous, on essayait d'être drôle, au moins.
Ouais. ça, c'est bien, c'est la. C'est pour ça qu'on ne voit pas très souvent, en fait. Il y a un tweet de quelqu'un qui est dans l'univers JavaFX qui explique en fait des divers efforts pour essayer d'améliorer l'intégration entre JavaFX et les toolkits natifs pour que votre application ressemble plus à.
Qui utilise JavaFX?
Moi, je croyais que c'était mort.
Les gens qui font pas du UI complètement du tout et les gens qui font que du web, voilà. Mais tu peux faire une appli mobile avec JavaFX.
Justement, l'application de Devox.
Non, mais nous, on connaît pas, mais il y a des gens qui l'application, ouais.
Gluon, je sais pas, mais l'application peut être améliorée.
Après, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui veut venir nous en parler, pourquoi pas, ça serait intéressant. Parce que
c'est vrai que là, le tweet, c'est de Johan Voss, le papa de Gluon, qui est une surcouche JavaFX pour du
natif. Il est pas un peu collant.
C'est vrai,
Il parle français, en fait, ou pas?
Je crois qu'il est libéré des contraintes du travail, là.
Surtout qu'il peut pas faire de blagues quand on est en distance, parce qu'on voit pas les autres s'ils vont prendre la main, la parole ou pas. Donc, il a plus de mal à faire des blagues quand on n'est pas ensemble.
Et souvent, il les dit plus doucement, donc, en plus, moi, je peux les adapter, tu sais.
C'est ça, ça, en plus, ça, ça peut se nettoyer au montage. Que là, ici. Ouais. Plus compliqué, on
parle.
C'était pas code of conduct.
Ouais.
Sinon, il y a une donc la sérialisation, quand vous parlez aux gens qui sont les architectes de Java, c'était toujours ça a permis l'adoption, mais ça a toujours été un enfer pour nous à gérer, parce que c'est très mélangé. On se dit c'est juste prendre l'objet Java et le transformer dans un autre format, mais non, parce qu'il y a aussi toute la partie aller lire les données qui sont pas forcément officiellement accessibles des objets, initialiser les objets et leurs états sans forcément initialiser l'objet. Donc il y a
le
plein de hacks,
qui est un peu un casse-tête.
Voilà, le versioning qu'il faut faire complètement à la main. Donc là, ils ont posé le problème qui est plutôt bien écrit là de Brian.
Oui, c'est vrai que l'article
c'est un certain
très
Brian
Goetz
qui l'a fait, donc
c'est... l'article est
très bien fait. Il est très très bien fait, ce article.
Et donc il explique vers la fin des propositions sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour être plus explicite sur les choses que l'on veut sérialiser dans l'objet, donc pour laisser quand même déléguer ça à une sérialisation Java, mais sans avoir les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc à voir, c'est le tout début évidemment, mais intéressant.
Des nouveaux mots-clés potentiels là.
Oui,
open.
Et des nouvelles annotations. Une annotation serializer et des serializer.
Avec la version.
Voilà, qui permettrait effectivement de gérer les versions antérieures des objets. Et oui, il y avait la proposition. Alors attends, j'avais noté. Si comment dire.
Ah, elle a des notes privées. Attends, moi je mets ça dans le wiki avec mes notes et que je partage à tout le monde.
Vous savez que j'ai fait des notes à côté. Je vous ai déjà proposé de les partager.
Ouais, mais moi je le fais. Moi je me suis dit tout le monde partage.
Ah, moi j'écris des pavés. Je peux pas mettre dans le wiki. J'écris vraiment des pavés moi. Donc ouais, le mot clé open en combinaison avec le mot-clé private, qui permettrait donc de pas casser justement l'aspect privé des propriétés.
C'est private open.
Ça serait private open, voilà, avec la notation.
Avec les problèmes de.
Et ça, c'est pour gérer l'héritage.
La prochaine génération va dire
what? C'est pour gérer la notion d'héritage, parce qu'il disait qu'un des problèmes, c'est que comme on implémente une interface sérialisable, tous les objets qui héritent de l'objet qui a implémenté cette interface, par défaut, sont sérialisables et on oublie de le traiter. Et donc, potentiellement, tu as une backdoor à cet endroit-là. Petit problème de sécurité.
On peut pas dire non sérialisable une fois qu'on l'a dit.
Voilà.
Mais ce qui est marrant sur l'article, c'est qu'il parle que des problèmes de sécurité, de versionning, d'introspecter des objets, etc. Alors que, et là, il donne une liste impressionnante de frameworks qui sérialisent. Il dit, en fait, tout le monde met l'accent sur le format, mais le format, c'est pas le problème. Donc, YAML, JSON, binaire, on s'en fiche. Le problème, il est ailleurs. Donc, l'article est plutôt bien fait. J'ai pris plaisir à le lire.
Ouais, il est très agréable. Et il disait un petit peu plus loin que, justement, le format, c'est une fausse question, mais par contre, ça met en lumière un autre truc.
C'est pas une fausse question, c'est une vraie question, mais pas pour lui.
Pour lui, c'est pas le problème prioritaire. Il fait le tour des problèmes de la sérialisation en Java, et pour lui, c'est pas le problème le plus important. Mais il disait bien que Java, en fait, s'est concentré à vouloir le plus possible reproduire l'objet exactement, et que finalement, en ayant cette contrainte de vouloir faire le plus de choses, la sérialisation s'est mise à faire trop de choses, et c'est là que les failles de sécu sont arrivées. Et il y a un moment où c'est intéressant, parce qu'il dit justement, quand on voit que la plupart des libs, elles sont en JSON, en fait on s'en fout de représenter l'objet vraiment tel qu'il est, etc. Donc il est vraiment il est un petit peu long, mais...
qui est pas fait par la plupart de ces libraires là c'est les références circulaires, en fait, qui sont un des problèmes. Ça complexifie le bousin fortement. Voilà, sinon Scala 2.13 est sorti
Avec un gros refactoring de la PI collection.
Mais du coup, donc c'est ce que j'ai pas bien vu dans l'article, c'est
en français l'article.
Est-ce que j'ai pas fait gaffe à qui l'a écrit d'ailleurs. Le niveau de compatibilité
Escalator.
Ascendante. ça va beaucoup péter de partout.
C'est François Sarrazin.
Ah, c'est François.
Sarrazin, pardon.
C'est François. Du coup, ce que je trouve ça bizarre, c'est quand même dans les deux points quelque chose où ils font un grand refactoring comme ça, mais qui est pas ascendant.
Alors, en fait, c'est parce qu'il y a une partie du travail qui est faite pour matcher avec les derniers apports du langage Java. Donc par exemple, dans cette version-là,
using et try et tout ça.
Là, il y a le try catch with resource qui est porté.
Qui est intégré.
Et effectivement, pour le moment, il y a un backport de l'API qui est proposé pour les versions 2.11 et 2.12 avec des règles de migration.
D'accord.
Donc voilà. Mais ce que François expliquait, c'est qu'il peut y avoir des changements de comportement qui apparaissent. Ouais, okay, donc il faut quand même tester le truc, etc. Et après, il y a aussi des dépréciations d'éléments du langage. Donc par exemple, les flèches au format Unicode, la syntaxe procédurale, etc. Tout ça, ça sort. Il y a des nouvelles optimisations dans le compilo justement qui vont amener 5 à 10% d'amélioration dans les performances. Et la nouvelle collection, la nouvelle API collection, elle vient là-dedans aussi, puisque elle aussi, elle est donc il y a une meilleure lisibilité, mais il y a aussi des meilleures performances parce que le compilateur va pouvoir faire de l'inlining.
Et ce qui veut dire que Scala utilisera peut-être moins d'énergie que le Bitcoin, c'est ça?
J'ai cru qu'un canicule la semaine dernière était lié à la release de Scala quand j'ai lu l'article. Je me demandais, j'ai fait un peu de statistiques.
Et moi, je me demandais combien de temps Guillaume allait tenir avant de troller.
Et par contre, aussi, ce qu'il dit pas dans l'article, si je me souviens bien, donc par rapport à Doty, le futur Scala 3, est-ce que du coup, c'est une étape intermédiaire qui là, permet d'aller vers Scala 3?
A priori, c'est toujours dans le,
dans l'optique d'aller vers Doty. Okay.
Ouais, ouais. D'accord.
Bueno. Non, je suis désolé, j'étais en train de chercher une blague, mais en fait... Voilà, on va passer aux librairies maintenant. Il y a Quarkus, alors je pense qu'il y a eu 0.17 et 0.18 qui
sont conclus. En fait, je crois que c'était un observer, mais...
Mais non, c'est pas un observer. D'ailleurs, tu m'as énervé dans ton article sur les Box Microservices, cette comparaison. Donc Quarkus 0.18 qui est sorti avec ça y est le support de GraalVM 19 parce que GraalVM ils avaient sorti de passer de RC16 à version 19.
C'est en fonction de l'année, ouais, c'est, les, voilà. C'est l'année, donc là on est en 2019, 19 1 19
donc en 81 ans c'est la merde, mais
voilà.
Mais oui, ils avaient pété les trucs, donc il a fallu discuter en corriger en incrémental avec eux, donc ça y est ça support à partir de la 19.02, voilà, pour être précis. Le support pour, on a intégré une extension pour le client Fabricate qui permet d'écrire des opérateurs, enfin d'interagir avec l'API Kubernetes et notamment du coup d'écrire des opérateurs. Les opérateurs, c'est des petits morceaux de code qui vont interagir avec l'API Kubernetes et regarder l'état de votre système, l'état cible sur lequel vous allez et dire bah non, bah je veux rajouter tel nombre de nœuds, enlever telle configuration du cluster, etc., etc. Un meilleur support sur Gradle, le rajout du support de Kafka Stream en extension. Voilà, plus d'extensions autour de Camel, support de Drools et de JBPM aussi qui est arrivé, qui embrasse aussi le build time, donc il précompile le support des règles au build time, ce qui fait gagner beaucoup de temps.
Mais alors attends, parce que là vous avez annoncé un, j'ai oublié le nom, c'était il y a quelques semaines, là, Red Hat a annoncé le un nouveau, vous l'avez annoncé au Red Hat Summit là. Un truc, j'ai oublié le nom, le logo, c'est un pirate avec un œil comme ça.
Ah oui.
Attends.
Cogito.
Ah, Cogito. Ouais, c'était pas à Summit, mais.
Cogito. Bon, bref.
Ouais, c'est ça, en
fait. Et c'est pas lié à ça?
Si, exactement, c'est ça. En fait,
mais qu'est-ce que c'est?
Bah, avec le travail
en tout cas,
de
ils ont un
Cogito, c'est le nom de code. C'est le deuxième nom de code, parce que le premier s'est fait jeter, mais c'est le deuxième nom de code de reprendre
là,
les technologies.
Je veux connaître les premiers.
Non, mais il était public, tu peux le retrouver. Ah, c'est juste qu'il était, effectivement, ils allaient se faire shooter par les trademarks. Mais... donc, ils ont les technologies de BPM et de rules, de repenser ça pour une approche cloud native, Kubernetes, etc. Donc, au lieu d'avoir un gros serveur qui va contenir toutes tes règles et gérer tes différents sets de règles et des choses comme ça, là, c'est une approche beaucoup plus microservice où chaque morceau est isolé. Et donc ça va là-dedans, c'est-à-dire que donc c'est développé en Java, toutes ces technologies-là, et du coup de s'appuyer sur Quarkus pour faire cette optimisation mémoire et un travail au build time.
Pas mal.
Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui a écrit un article sur comment configurer une application Quarkus.
Et j'attends le deuxième article, mais tant que vous aurez un bug, il sortira
pas. Ah bon, c'est vrai, il y a un bug. Ouais. Là, tu m'en parleras après. voilà, niveau middleware, il y a Cloud Event qui disent attention, on va sortir bientôt la 1.0, donc réveillez-vous. Et Cloud Event, c'est alors dans les, au niveau des messages, on peut définir, bah ça sera du JSON dedans, mais on n'a pas de standard sur les métadonnées.
Attends, je pense qu'il faut revenir Cloud Event, on n'en a pas parlé de.
C'est ce que j'essayais d'expliquer.
Je tente un truc.
Standardiser un format de message. En fait, les messages WhatsApp, les messages privés Twitter, les quoi.
C'est une spécification vendeur neutral, donc qui n'est pas attachée à un vendeur, pour définir un format d'événement de données qui facilite l'interopérabilité des événements entre plateformes et systèmes.
Tu le connais par cœur ou tu l'as dit là?
Bah, je l'ai mis dans mes notes.
C'est joliment dit.
Merci, merci.
Et qui est, par exemple, utilisé dans Knative pour la partie eventing de Knative, qui propose des briques pour faire du serverless au-dessus de Kubernetes.
C'est une super initiative, en tout cas.
C'est par Microsoft qui disait, bah, on a plein d'éléments en entrée, plein d'éléments en sortie, mais ils sont pas compatibles, voilà, les uns avec les autres. Et du coup, une librairie est pas capable de dire, bah, en termes de métadonnées, voilà mes points d'entrée, enfin, voilà.
Fallait prendre XML.
Non, mais XML, c'est la façon dont tu décris.
Ça, c'est leur...
Mais ce qui, les attributs.
Ouais, voilà. Mais t'avais les DTD.
En fait, là, ce qui est super bien, c'est que t'as des attributs qui sont.
Oui, mais fallait la définir. Ça définit la DTD. Sauf que là, c'est en JSON, mais bon, ouais. C'est ça.
Arnaud, t'as dit DDD.
DDD. Non.
Il est pas tout jeune, hein. Parce qu'après, il y a eu XSD. Ouais. Bon, moi, tout ce que je vois, c'est que quand le JCP crée une norme, tout le monde dit c'est pourri. Et là, il y a 4 bitniks qui cloud events et tout le monde trouve ça super. Ouais. On dit oui, les normes, c'est super. Alors qu'il y a 5 ans, on dit les normes, c'est tout pourri. Alors bon, voilà, je dis ça, je dirais. Ouais.
Mais je suis un peu énervé quand même.
Je suis un peu énervé parce que j'y ai passé du temps. Bon,
c'est ça.
Non, JCP, j'en ai fait.
En parlant de ça. Alors, visiblement, la plupart des gens préfèrent l'approche Big Bang dans la migration du nom de package Javax vers Jakartax. Voilà.
Non, donc, ça t'inspirera rien.
82%.
Toi, t'es plutôt pour le Big Bang ou pas?
Moi, j'avouerais que j'ai un peu laissé tout ça de côté. Je pense que j'y ai passé trop de temps maintenant. D'accord. Ça m'intéresse plus du tout. Je laisse les autres faire. Mais oui, effectivement, Reza, bah, qui est à fond derrière les Java E, Guardian, etc., etc., avait fait un survey sur Twitter, là, début du mois, en disant, un sondage. Est-ce que vous préférez une approche où petit à petit on renomme les packages ou est-ce que vous voulez une approche Big Bang? C'est-à-dire qu'on fait un rename all Javax en Jakarta. Bien sûr, enfin, je sais pas vous, mais moi, on pose la question, j'ai tendance à dire Big Bang. Mais après, c'est un peu compliqué à faire.
Moi, j'aurais bien aimé qu'on demande à ceux qui vont le faire, tu vois.
Quel est leur avis? Je suis pour le Big Bang.
Les deux sont compliqués. Et autant le faire avec le Big Bang, ce sera quand même.
Pour moi, c'est soit tu souffres par 1000 petites coupures pendant 10 ans.
Un an.
Soit tu fais un gros,
ça veut pas dire que ce sera forcément beaucoup plus court.
Non.
Mais au moins, tu prends le truc à bras le corps et t'y vas, quoi. Tandis que peut-être que ce sera que 9 ans au lieu de 10 ans de couture.
Non, je pense que...
Mais je pense que ce sera plus court, mais ça risque d'être long quand même. Parce que t'as l'impact, enfin, toutes les dépendances, ça va loin. Hein.
Et lorsque tu dis, moi, je préfère l'approche Big Bang, c'est Emmanuel Bernard ou c'est Red Hat?
C'est Emmanuel Bernard, mais je pense que...
De Red Hat.
Je sais que Mark Little derrière était plutôt approche incrémentale. Moi, j'étais plutôt ça. Je ne me rappelle plus Jason Green. Je pense qu'il pense comme moi. Voilà. Donc on est plusieurs voix en fait. On rentre dans la communauté, on exprime nos opinions. Bon, j'étais pas le seul. Il y a eu plein de discussions sur les mailing lists. Voilà, sinon on va passer à l'infrastructure. Il y a un petit article sur qu'est-ce que c'est un RPM, comment c'est fait, quoi ça sert, pourquoi. Et donc ça réexplique un peu des fondamentaux, de notamment des distributions Linux qui ont telle version, elle est unique pour tout le système, et puis comment c'est packagé, comment on définit les dépendances, comment est-ce qu'on peut désinstaller, pourquoi ça marche. Voilà, donc je vous encourage à aller voir ça, évidemment, c'est vieux comme le monde, entre guillemets.
Tout le monde sait que RPM, ça veut dire recette par marmiton. C'est là où...
Ah ouais.
Henri Gomez, si tu nous entends...
Qu'est-ce qu'il y a RPM?
Sachant que je ne savais pas, mais le RPM ne savait pas d'où venait la source. C'est pour ça qu'on a DNF, qui, lui, s'est récupéré... notamment par exemple de Maven, enfin l'équivalent de Maven Central.
Oui, il connaît les repositories, voilà. C'est ça. Et en fait, l'article est bien parce qu'il est super court et super clair.
Et par morceaux comme ça.
Voilà, et c'est le premier d'une série, donc il y en aura d'autres à venir sur comment t'écris un RPM, justement, des choses comme ça.
Ouais. C'est là où tu commences à en chier parce qu'il faut tout séparer les petits.
C'était rigolo, moi j'aimais bien.
Une application
Java. Je suis un peu
monsieur. Mais enfin,
Java notamment, c'est un peu compliqué.
Il y a plein de cas où les gens l'utilisent très mal. Moi, je vois des tonnes de clients qui vont installer des RPM pour derrière traficoter à la main les fichiers qui sont installés par le EPR. Donc ça reste, enfin, c'est important de comprendre comment ça fonctionne et quels sont les impacts quand on fait ces modifications-là, puisqu'après le RPM lui-même va prendre en considération les changements, donc ne plus updater certains fichiers que vous avez modifiés alors que vous n'avez pas y touché, etc. Donc il y a plein de trucs où, effectivement. Enfin, RPM, mais c'est pareil,
je
dis bien.
Alors moi, à l'époque où je devais en écrire, je les faisais relire par un ops. C'était moi qui les maintenais, mais c'était, j'avais un ops qui les relisait et qui m'a appris plein de trucs et qui s'assurait que je mettais pas de bêtises justement.
Raspberry 4, Raspberry Pi 4,
3 fois plus,
toujours $35 jusqu'à $55.
$35, c'est incroyable.
Et moi, je me demande, parce que j'étais là, bah alors là, ça y est, double c'est écran. L'année
USB 3.
C'est l'année où double écran, double HDMI. Et du coup, je me suis dit, ça y est, c'est l'année où je me mets au.
Où je m'y mets.
Et après, je me suis dit, je vais faire.
Que j'ai jamais ouvert.
Eh ben, je sais pas quoi faire. Et donc,
moi, j'ai un super cluster de 12 Pi et je l'ai
utilisé pour une conférence. Méto, quoi.
Parce que ça permet de brancher des branches. Mais j'ai un super cluster à la maison. Je l'utilise pas tous les jours.
En Lego et tout? T'as fait le rack en Lego et tout?
Non, j'ai acheté des petites boîtes et puis je les scratch.
Là, il y a un boîtier, justement, ils en parlent dans le, il y a un boîtier qui a été designé que tu peux commander.
Couleur Raspberry, enfin.
Ouais, tout à fait.
Framboise.
Et du coup, si vous utilisez les Raspberry pour des projets, bah, faites un petit crowdcast ou parlez-en sur la mailing list. Ou... Toi, tu utilises?
Non.
D'accord.
Non, je n'utilise pas.
Okay. Alors, nous, on s'en sert dans des Vox for Kids pour les ateliers Arduino.
Pour ça devrait être un atelier microservice parce que tu débranches, tu rebranches.
Tu l'appelles quand même Arduino.
Je suis comme toi, Emmanuel. C'est pour ça me donne envie et en fait, je sais pas quoi faire. Et je me disais déjà de le faire avec les enfants, mais ils s'en fichent complètement.
Ouais, ouais, voilà.
Je sais pas.
Moi, j'ai mis plus de temps à configurer le DNS, tous les trucs réseau, en fait. Parce que installer le Raspberry, quand on a 12, comme il y a des images, tu peux les installer quand même assez vite. Mais après, tu te retrouves avec tes problèmes réseau, tu galères, tu rebootes, voilà. Ça marche jamais.
Tu vas sur l'Apple Store et tu commandes ton truc qui marche.
Ouais. Non, mais là, c'est pour une démo. Et c'est vrai que quand t'as 12 Pi, ça coûte pas très très cher. Tu te retrouves avec un cluster en vrai. Tu débranches, tu vois, les failovers, etc. Enfin voilà, pour un talk, c'est assez visuel.
Pour le failover, c'est rigolo.
Pareil, les logs, t'agrèges des logs, etc. Donc c'est assez visuel. Quand tu débranches un truc, tu vois les logs. Bon, bref. Mais... Ah, c'est un peu de boulot pour les configurer et surtout la partie réseau. Wow.
Moi, je pensais en utiliser un pour faire une sorte de serveur externe dehors avec des petits capteurs un peu partout pour voir où mon chat se bat. Donc, alors, est-ce que c'est avec le RAWAN, avec du RFID, du NFC, du je ne sais quoi, du Bluetooth, BLE ou quoi. Mais j'étais en train de réfléchir. Tiens, mais je vais peut-être pouvoir ressortir mon Raspberry Pi qui traîne dans mon tiroir depuis.
T'as qu'à faire ça, écoute. Regarde, au lieu de faire un collier machin. Tu prends une mèche,
ouais,
une veste, plein d'endroits. Le Raspberry d'un côté, la batterie de l'autre, ouais. La puce GPS en dessous.
Non, mais ça serait vraiment pour le serveur, tu vois, dans le jardin.
De toute façon, t'es tranquille, le chat.
T'es connecté à mon
usine.
Il aura 30 kilos.
Non, 4 kilos de métaux.
C'est là, moi, je vais pas faire ça. Tu sais, comme quand tes parents, ils te faisaient faire, tu sais, mettre la chemise à l'intérieur du pantalon. Ah non, je peux pas. Les chiens, les chats, c'est pareil.
Après, avec beaucoup de poils, peut-être, ça se voit pas. Mais bon. Je sais que je le ferai pas. Mais
bon, en parlant de toi, faire tourner des containers custom sous Chrome OS.
À moi.
Quelle idée.
C'est pas lui qui l'a dit.
C'est pas moi qui l'ai
dit. Non, tu l'as pas. Il a pas été traduit.
Il utilise Fuchsia.
Oui, alors c'est un projet, donc
c'est quoi les custom containers déjà?
Alors le projet c'est Containers justement, et c'est un projet qui permet de faire tourner des VM dans Chrome OS. Et alors il n'y a pas pour le moment de website, donc là c'est la doc qui est très complète, mais pas très très user friendly. Hein. C'est assumé, c'est noté dans
parce
le.
Ils ont écrit.
Ouais, t'as tout. Et la doc, enfin le site viendra après, voilà. Alors là c'est pareil, tu vois, c'est un peu comme Raspberry, moi je vois pas quand je vais avoir envie de faire ça, mais je me suis dit qu'il y a des gens que ça amuserait peut-être, alors je l'ai mis.
En tout cas, si vous aimez les acronymes ou vous savez pas ce que c'est, Crostini, CrossVM, Concierge, Matred, Tremplin,
et après je vois de plus en plus de personnes,
Garcon,
alors fatalement chez Google, mais qui utilisent des Chrome OS, quoi, des Chromebooks, ouais. Pour aller en conférence à droite à gauche, et ils utilisent Crostini pour faire tourner tout ce qu'ils veulent sur leur machine, ce qui est assez récent, parce qu'avant on pouvait pas faire tourner du Linux à l'intérieur, Et du coup, ils utilisent que ça partout, c'est léger.
Et bah, justement,
ça se met à jour tout seul.
Là, je crois que dans les prérequis de la doc, ils disent de prendre un Chromebook.
Ouais. Mmh. Ouais, bah, ouais.
Voilà.
Et là, on voit la main qui dit
ah bah,
prenez
oui.
un Chromebook. Voilà, sinon, HAProxy 2
ouais.
et au-delà.
Ouais, la dernière version a commencé à se réadapter un petit peu. Là, il y a pas mal d'apports avec celle-ci. Il y a notamment, forcément, il y a un Kubernetes Ingress Controller, parce qu'il faut un Kubernetes Ingress Controller, hein. Il y a aussi un exporteur pour Prometheus, pardon, je vais y arriver. Et puis il y a d'autres fonctionnalités. Alors il y a un truc assez sympa, c'est Layer 7 retries. C'est on va pouvoir faire en fait des retries sur un autre serveur. Donc évitez de le faire avec des requêtes POST, sinon vous allez avoir des surprises. Mais voilà. Une nouvelle API de configuration dynamique d'HAProxy, ça c'est cool, qui s'appelle le Data Plane API. HTTP2 est supporté maintenant par défaut de bout en bout. Et puis, il y a une amélioration aussi du support TCP Fast Open, des choses comme ça. Il y a du profilage automatique dès qu'un service a une latence de 1000 microsecondes ou plus. Donc, Ah oui, puis là, maintenant, vous pouvez aussi configurer le nombre de threads que va utiliser HAProxy, ce qui est assez pratique pour les environnements cloud. Voilà.
Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Hitless Reload. J'ai lu un petit peu vite, j'ai lu Hitler Reload. Faites attention. Non, c'est pour de ce que j'ai compris, la reconfiguration à chaud proprement faite, voilà, sans avoir arrêté le process ni même d'arrêter la consommation.
Mais j'étais surpris de voir le support gRPC. Je pense que
c'était
avant. Ah
oui, non, il y a le support gRPC aussi, ouais.
Alors, on va passer au nuage, au cloud.
Il y en a pas aujourd'hui.
Pas beaucoup. Retour d'expérience sur AWS Lambda d'une startup qui s'est dit on va tout faire en serverless et ça va être super. Et donc je ne sais plus s'ils sont morts ou pas, c'est
ou
pas,
pas
le problème.
Non,
mais
ils sont pas morts.
Serverless, ils sont encore en cold start.
En tout cas,
on verra.
En tout cas, il y avait donc ils donnaient leur retour, les points problématiques, les choses, la façon dont ils ont contourné. Donc c'était c'est intéressant comme article, c'est un petit peu long, mais c'est intéressant. Alors déjà, il y a évidemment la perte du contrôle de la stack. On en parlait. Je vous encourage à aller revoir la discussion sur la virtualisation avec Quentin, parce qu'on parlait justement des gains de perf qu'on peut avoir juste en changeant un petit peu les protocoles de, enfin les arguments de compilation quand vous savez la machine exacte sur laquelle vous tournez. Que évidemment quand on veut faire des connexions longues du type WebSocket ou SMTP ou des choses comme ça, c'est pas fait pour ça, mais bon.
Alors WebSocket, ils l'ont intégré.
Ils viennent de le rajouter, voilà, ils l'ont rajouté, mais du coup, je sais pas comment ça marche parce que du coup, ta lambda va rester allumée ou elle est rappelée à chaque fois qu'il y a un byte qui arrive sur
Je sais pas du tout. Ouais.
Parce que ta lambda, tu la payes quand même à la centaine de millisecondes.
C'est l'API gateway qui a été rajouté dessus par WebSocket, c'est pas au niveau de lambda lui-même.
Ouais, mais du coup, comment t'intègres la notion de WebSocket avec Lambda? Peut-être c'est réveillé à chaque nouveau.
Je pense à chaque message. Enfin.
Mais c'est pas des messages, c'est des bytes en fait.
Oui, enfin.
WebSocket, c'est assez bas. Non
oui, enfin chaque batch de bytes qui est envoyé.
Voilà. Aujourd'hui, c'est packagé avec une corrélation entre le CPU et la RAM. Donc, on se dit, tiens, je vais optimiser parce que j'ai pas besoin de tant de RAM que ça. On enlève. Du coup, le CPU est plus lent. Ouais. Du coup, votre lambda, votre fonction, elle s'exécute en 10 fois plus de temps. Donc, vous payez potentiellement plus cher. Donc, faut faire un petit peu attention. Faut aussi considérer qu'on a du CPU et plus c'est court, mieux c'est. Mais n'allez pas trop en dessous, c'est des incréments de 100 millisecondes. Donc, si vous optimisez en dessous de 100 millisecondes, de toute façon, vous ne gagnerez pas en termes d'argent, en tout cas. Voilà, que la latence entre CloudFront, API Gateway au milieu et puis les lambda, c'est au moins 50 millisecondes de round trip. Donc, si vous voulez un temps de latence super bas au niveau de vos utilisateurs...
J'avais noté 300 millisecondes, je crois. Et pas réductible, parce qu'effectivement, il y a l'appel entre CloudFront et l'API Gateway, et l'API Gateway appelle à Lambda à son tour. Parce que justement, c'est ce qu'ils expliquaient dans l'article. Eux, au départ, ils avaient mis le maximum.
Ça a plus de sens, 300 millisecondes, en tout cas.
Ils avaient mis tout le truc en Lambda, et ils se sont rendus compte que comme cette latence-là, ils pouvaient pas la réduire, ils avaient aucune marge de manœuvre dessus, ils ont retiré tout ce qui était appelé par le front, par les utilisateurs directement, parce que sinon, t'avais un problème, t'avais justement une latence.
Ça me rappelle un article il y a bien 30 ans, les 7 fallacies du network.
Système, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est plus du tumé du réseau, de toute façon.
Il y avait Ginny en parlait.
Ouais.
Le système est distribué, le réseau est pas.
Quelle idée de les distribuer aussi. Ouais. Un bon vieux mainframe et puis.
Vox Monolith.
On attend. C'est l'année prochaine que tu l'annonces.
C'est le prochain.
Avec. C'est en avril, on fait plus d'Avox France, on fait Vox Monolith.
On attend le retour de cycle, ça fait
un certain temps. Ça va pas tarder à revenir, faut pas inquiéter.
Vox, ouais, mais Vox mainframe, c'est pas. pas sponsorisé par IBM du coup. alors pour tracer c'est assez cher et verbeux, faut utiliser CloudWatch qui apparemment est un peu merdique en avant du UI, ouais. Moi je connais pas mais donc je me permettrai pas. Les fonctions lambda elles doivent être idempotentes parce que ça peut arriver qu'on rejoue la même fonction avec la même requête parce que ben peut-être que l'infrastructure ne sait pas si enfin il y a pas de garantie forte acide de exécution de une et une seule fois.
Donc vous pouvez avoir
exactly
des doublons.
Once, ouais. Voilà. Du coup, l'idempotent, c'est pas nécessairement compliqué. Il faut un UUID sur l'opération que vous faites ou des choses comme ça, mais il faut y penser parce que c'est fonctionnel au niveau de la façon dont vous faites les choses.
Il y avait le petit truc rigolo du out of memory. Parce que t'allais...
Je me rappelle pas.
Vas-y. Parce que en fait, quand les lambda, elles ont un temps d'exécution limité pour éviter qu'il y ait un deadlock qui explose la facturation. Et le problème rigolo, c'est qu'une fois que le temps est dépassé, la lambda, elle disparaît. Et donc, pour chercher d'où il vient ton out of memory, il va falloir que tu repasses justement par l'outil de log CloudWatch qui est pas terrible. Mmh. Et il va falloir s'amuser à faire la requête sur les lambda qui ont le même temps et qui sont. Bref. Les out of time sont pas top à débugger.
Surtout qu'il y a apparemment il y a même pas d'infos qui disent je tue cette lambda parce qu'elle a duré trop longtemps. Donc elle a juste à disparaître et du coup à débugger c'est toujours la merde, c'est comme ça.
Ouais, c'est un peu
parce que sinon après il y a aussi la notion de peut-être pas dans le cadre de lambda mais OM kill où justement tu as out of memory exception parce qu'au niveau par exemple des containers Java n'a pas enfin par rapport aux cgroups Java pense qu'il y a plus de mémoire qu'il y en a réellement à l'intérieur du container.
Avant Java 11.
Ouais.
Ça a été backporté en Java 8.
Non,
c'était sur les toutes dernières, c'est par défaut et c'est pas une expérimentale. Parce qu'ils ont, en Java 8, ils ont, parce qu'il y a eu la version des options Java 9 sur lequel où c'était expérimental qu'il fallait donc activer avec les options et que c'était avec le max RAM fraction etc qu'il fallait configurer qui était galère et donc ça avait été backporté en Java 8 dans je sais plus quelle version faut les activer mais là dans la toute dernière version de Java 8 ont été backportés la version Java 11 où là on dit juste le pourcentage qu'on veut par rapport à la mémoire du container minimum maximum pourcentage etc et ça par contre c'est en version stable puisque c'est en version stable dans Java 11 donc ils ont pas porté le code c'est considéré comme ça
d'accord souvent du coup c'est des unités enfin comme quand on fait de la programmation réactive ou événementielle on veut renvoyer un autre événement donc des fois on veut chaîner les lambda bon pareil la latence elle explose un petit peu parce qu'il y a 100 millisecondes en gros entre chaque appel rajouter que le cold start. Alors le cold start, c'est en fait les lambda. Alors je sais pas comment c'est fait pratiquement, mais imaginons que j'utilise quelque chose un peu similaire à des containers et des images. Il faut que l'image elle soit sur le serveur pour qu'après on démarre la fonction. Donc ça peut démarrer très vite, mais si l'image elle est pas sur le serveur, faut quand même amener l'image sur le serveur avant de faire ça. Et donc le cold start pour des applis, c'est souvent 3 secondes ou des choses comme ça. Et donc, en fonction de si on touche un nouveau serveur qui n'a pas l'image de notre code, ben, ça va prendre 3 secondes. Et donc, il y a des gens qui compensent en lançant des appels pour toujours avoir des fonctions démarrées. Ouais. Donc, ça, c'est un peu antinomique.
Mais là, en plus, ça ne marchait pas dans leur cas.
Ça marche pas. Ça marche quand tu as un seul serveur, mais à l'échelle, ça ne marche pas parce que tu vas toujours toucher un nouveau serveur potentiellement qui n'a pas encore été chauffé. Donc, tu vas toujours avoir un pourcentage de tes utilisateurs qui vont avoir un temps de réponse non pas de 150-200 millisecondes, mais genre 3 secondes et demie.
Puis là, il y avait un autre souci aussi, c'est que les lambda, alors tu as le choix, soit tu les exécutes et les exposes directement, soit tu les exécutes dans un virtual private cloud. Et le problème, c'est que quand elles sont exécutées dans un VPC, tu peux pas les connecter à S3 ou à d'autres services. Donc, ou alors il faut que tu t'amuses à installer une gateway NAT, etc. Donc là, ça commence à coûter de l'argent. Et donc finalement, c'est soit tu fais tout tourner dans ton VPC, soit tu fais tout tourner en dehors. Mais avoir un mode mixte, apparemment, est pas. Enfin, sauf si tu as envie de te prendre vraiment la tête, quoi.
Voilà. Sinon, en parlant de cloud provider, pour ceux qui font du machine learning, de la data science et qui ont besoin de GPU pour accélérer ces choses-là, donc il y a nos amis de Clever Cloud qui ont sorti Clever Grid.
Si, Clever Grid.
J'étais confus. En fait, c'est carrément, ils ont fait un site web dédié.
Ouais, donc, c'est ça.
Ils m'ont confusé,
ouais.
Ils m'ont confusé là. Ouais. Et voilà, du coup, c'est de l'allocation de,
bah, du GPU, cluster GPU à des services. Ouais, ouais. Et c'est, il y a un truc qui est important, c'est que c'est complètement hébergé en France.
C'est du GPU français, madame.
C'est, tout à fait, monsieur, c'est RGPD, hein.
Non, et c'est pas cher, c'est 10 balles par jour, ouais.
À partir de.
Ouais,
pour le plus petit.
Je suis content que tu sois là. On va passer au web.
Non, on va prendre un café.
Allez, on va à café.
J'avais mis un article qui était comment améliorer le temps de chargement de React.
Ouais. Donc c'est pareil, c'est un retour d'expérience d'une équipe qui, bah, quand elle a démarré, là, vous ne le voyez pas puisque c'est radiophonique, mais Vincent se bouge sur la table.
On peut faire notre sieste maintenant que le front est arrivé.
Donc ils ont commencé avec une appli qui était Vanilla.
Vanille.
Quand l'appli a commencé à grossir, bah, évidemment, il a fallu passer les choses un petit peu plus sérieuses à partir du moment où ils ont eu pas mal de composants. Donc là, ils ont basculé sur du React avec une archi assez classique. Hein. Ils ont pris du Redux. Bon, ils ont eu un peu mal aux cheveux, mais ça, c'est normal. Et React Router. Et bah, tout s'est bien passé jusqu'à ce que l'appli commence à vraiment grossir, qu'il commence à y avoir beaucoup de composants.
C'était bien jQuery.
Ils se sont retrouvés avec un bundle de 7 mégas. On va le télécharger.
Oups,
sur ton
c'est
petit,
vrai.
Oups.
Tu sais, quand t'as la 3G avec une barre.
Anémique, en plein milieu de Paris.
Moi, quand je passe dans le tunnel du RER.
JSF Forever.
C'est ça. Et donc, c'est les pistes.
C'est un cookie de 7 mégas.
L'article est intéressant parce que justement ils décrivent tout ce qu'ils ont mis en place pour arriver à corriger ces problèmes-là. Alors il y a le fait de mesurer les performances avec vous savez des dev tools, que ce soit dans Chrome, dans Firefox, etc.
Avec des flemme graph notamment.
Voilà, qui sont super bien faits et qui vont vous permettre.
Le front, ça me fait le même effet, j'ai la flemme.
Non, flame, elle fait la.
Qui vont vous permettre d'identifier les composants qui posent problème. Il y a le fait de splitter le code, hein, puisque comme on disait, bah, au départ, ils avaient un bundle de 7 mecs, donc ça le faisait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait plusieurs trucs. Ils sont passés à Webpack 4, pardon, parce que Webpack 4 facilite le splitting de code dans des bundles plus petits, qui peuvent être chargés à la demande ou en parallèle. Alors après, le seul problème là-dessus, c'est qu'il y a des changements d'API entre Webpack 3 et 4, donc ça, c'est à vérifier. Ils ont utilisé React Loadable pour splitter le code, non plus en se basant sur le routeur, mais en se basant sur les composants. Je trouvais assez intéressant.
J'ai rien compris. Ils expliquent pourquoi...
C'est comme les Java modules, c'est ça, ça charge directement.
C'est parce qu'en fait, je pense que quand tu te bases que sur la route, à certains moments, tu as trop de composants de charger, et donc tu ne réduis pas assez. Alors qu'en ayant une approche toujours plus fine par composant, tu dois pouvoir arriver à augmenter tes performances à certains endroits. Ça peut venir, ça aussi, d'un problème de découpage, je pense, parce que le découpage en composants n'est pas si explicite que ça pour tout le monde, je dirais. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, ils ont utilisé un module qui s'appelle React Window pour gérer les listes longues, parce qu'ils avaient beaucoup de listes. Alors, ils font du, je sais plus trop, ils faisaient une analogie, ils font de la vidéo. Je sais plus si c'était avec Spotify, l'analogie ou quoi, mais bon, ils manipulent des très très longues listes de données, et donc React Window va pouvoir faire du lazy loading, il va pas afficher les items qui sont pas immédiatement visibles, des choses comme ça. Il y a la suppression des rendus inutiles, parce que des fois, on a du code mort et du code dupliqué, et on fait pas le ménage. Et puis il y avait le cas, alors ça c'est le cas hyper classique, il y a des rendus inutiles parce que des fois ce qui va se passer c'est qu'on a des appels asynchrones dont les retours vont arriver après que on ait déjà la logique métier qui soit passée, ce qui fait qu'on fait du re-rendu. Et ça c'est pas propre à React, hein, ça arrive en Angular, ça arrive je pense avec à peu près n'importe quel framework dès qu'on a plusieurs appels asynchrones qui sont faits. Et dans l'extension React Developer, justement, il y a une option Highlight Updates qui va permettre d'identifier les composants qui ont ce genre de comportement pour pouvoir les résoudre.
Les embuler.
Voilà. Et donc après, ils ont aussi d'autres pistes d'amélioration.
On en parle après, d'ailleurs.
Ils ont d'autres pistes d'amélioration, comme le fait d'analyser le build pour comprendre qu'est-ce qui va exactement dans chaque bundle. Il y a le fait, ils pensaient utiliser Pure Component, qui est similaire à React Component, mais qui implémente une méthode qui s'appelle Shoot Component Update. Et cette méthode Shoot Component Update, elle va faire un diff sur l'état du composant. Donc évidemment, elle va être plus efficace.
J'avais compris. Shoot.
Allez, oui, ça c'est en dernier ressort. Tu sais, pas d'application, pas de problème. Hein, voilà. Et puis, bah, ils aient évidemment utilisé beaucoup les service workers, le prefetching, les choses comme ça, qui vont venir nous aider. Donc, leur conclusion, c'était, mais enfin, ça paraît évident, mais que c'est pas parce que tu fais du React que l'application elle va être hyper performante. Il faut malgré tout continuer à faire attention. Et puis, surtout, c'était d'apprendre à se servir des dev tools parce qu'il y a énormément de fonctionnalités dedans qui peuvent vraiment nous aider. Donc, voilà. Et puis comprendre évidemment comment React fonctionne aussi en interne, mais ça, de manière générale, c'est mieux avec n'importe quel outil. C'est pas propre à React. Je te laisse faire les transitions comme ça, on a l'impression D'accord. que je suis pas toute seule.
Et, ils sont où les autres d'ailleurs? Et donc, sinon, il y a évidemment Angular, c'est tous les semaines pair, et donc il y a une nouvelle version qui est sortie. Angular 8, et donc notre Cédric National a fait un article qui explique les changements.
Voilà. Donc il y a le support d'abord de TypeScript en version 3.4. C'est la première version, la 8.0, avec Ivy. Donc Ivy, c'est le nouveau compilateur, justement.
Ah, Ivy.
Pas Ivy pour récupérer.
On connaît,
les bancs,
c'est pas le même. C'est pas le même Ivy. Ouais.
Donc c'est la première version où il est en opt-in. Alors le faites pas en prod, hein. Mais par contre, n'hésitez pas à tester avec parce que il y a pour le moment. Alors ils ont essayé justement chez Ninja sur leur projet à eux, et il peut y avoir des petites surprises. Donc c'est pas mal que vous testiez. Ça permet de faire des retours à l'équipe. D'ailleurs, Cédric a fait le meilleur too long didn't print ever. Il a mis dans le futur, Ivy aura plein de fonctionnalités cool, mais pour le moment, il essaye surtout de rien casser. J'ai trouvé ça magique. Voilà. Il y a le support de Bazel qui arrive, donc c'est l'outil de build qui fait de l'incrémental et qui va permettre de builder du back et du front en même temps. Il y a également une nouvelle syntaxe pour le lazy loading des routes qui se base sur la syntaxe import de TypeScript. Donc là, il y a un petit peu de réécriture. La bonne nouvelle, c'est que la CLI le fait automatiquement pour vous si vous faites un ng update. Il y a également une nouvelle option pour l'enregistrement des service workers, parce que ce qui se passait, c'est que dans le cas où on a une tâche asynchrone qui va se déclencher de manière un peu récurrente, l'application, elle était jamais en état stable. Et normalement, les service workers, ils se déclenchent une fois que l'application est en état stable. Donc là, avec ces nouvelles options-là, on peut dire à l'application de démarrer les service workers immediately, de manière décalée ou des choses comme ça. Et puis,
c'est-à-dire quoi l'état stable dans...
Bah, c'est justement une fois que tous les appels qui sont faits au démarrage ont abouti. Et donc, quand tu avais ces appels qui étaient faits soit asynchrone ou de manière récurrente, etc., bah, il voyait qu'il y avait cet appel qui revenait et qui pour lui n'était jamais terminé, donc il se mettait pas en état stable.
D'accord.
Et donc là, on contourne. Et puis, il y a des petites modifications aussi qui vont apporter des breaking changes. Il y en a qui sont amenés par Ivy, mais d'autres pas. Par exemple, il y a la suppression du package HTTP, mais bon. Il est pressé depuis la 5.0, donc là, normalement, vous n'êtes pas impacté.
HTTP.
Non, c'est que le package a été...
Ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que Java l'a jamais fait. On a toujours dit que c'était plutôt une bonne chose. Et moi, pour faire pas mal de Angular, je crois qu'on est toujours à Angular 6. Là, on n'hésite pas. Enfin, les gars, ils n'hésitent pas à dire voilà, le nouveau module HTTP. L'ancien, il reste un petit peu, mais l'ancien... il disparaît là en 8.
Ouais.
Java n'a jamais fait ça, quoi. Donc le développeur Java, en fait, il refactore pas.
Alors que côté web, c'est un truc fréquent. Angular le fait, mais c'est pas les seuls. Et ouais. Effectivement, je pense que c'est pas
mal. Je trouve que c'est pas mal, en fait.
Bah oui, parce qu'en plus,
ça t'oblige à refactorer.
Bah non, c'est pas. Non, bah non, ça casse tous tes trucs, surtout.
Bah ouais.
Mais comme il laisse le temps. Non, mais il laisse le temps, il laisse plusieurs versions. Donc tu as le temps d'anticiper.
Là, il s'est passé quelques années.
Tu vas le payer.
En fait, ce qui se passe, moi, l'expérience que j'ai, c'est que les...
Tes utilisateurs.
En fait, il y a une raison pour laquelle il y a un écosystème Java avec des entreprises et des gens qui payent pour du software et pas forcément dans d'autres langages. Et je pense que ce non-cassage, il en fait partie. C'est-à-dire que les gens, ils ont développé leur appli et alors, c'est bien que c'est des mauvaises pratiques, etc. Mais à un moment, ils veulent plus vraiment y toucher et ils veulent peut-être mettre à jour pour la sécurité, etc. Mais si tu faut que tu passes à réécrire... un quart de l'appli parce que le framework web a tellement évolué que tu t'es appuyé sur ces composants-là, et ben tu râles fort en fait. Et donc les gens ils achètent cette confiance là.
Ouais. Bien sûr, mais ça fait aussi, enfin là tu parles effectivement de l'appli en prod depuis 10 ans et la JVM qui a évolué, bien sûr. Mais pendant que tu développes, le développeur Java, enfin la vie du développeur Java, ça a toujours été se battre avec leur boss pour refactorer, pour changer du code, pour modifier une API. Et tu vois, le refactoring, on va pas te le donner parce que ça marche.
Non, bon, moi je suis pas d'accord.
Non,
enfin, non, ce que je veux dire, c'est que clients... ce que je veux dire, c'est qu'en Java, tu as des tonnes de frameworks, donc tu as le choix du framework.
Oui, non, mais même dans le langage, tu vois, le langage, il est compatible.
et les développeurs Java galèrent pour demander quelques jours hommes pour refactorer, et la réponse c'est ça marche, on n'a pas à le faire. Et ça a créé ce truc où le développeur Java, bah, il réfactore pas, parce que quand il demande, on lui dit, sert à rien, parce que ton truc, il marche. Bref, je trouve que c'est un truc un peu pervers.
Ouais,
effectivement, le coût de la prod.
Après, tu retrouves le problème côté front, parce que côté front, il faut aussi que tu aies le temps de faire ta montée de version de framework et
110% du temps.
Oui.
Et on te le laisse pas toujours non plus.
Sauf pour la sécurité qui devient généralement la raison que t'es obligé d'upgrader, comme d'habitude.
C'est un peu dommage.
Ça, c'est un petit peu nouveau. Enfin, voilà, c'est un sujet qui fait que t'arrives avec plus de poids. Genre, non, bah, tu vas te faire poney, on va être dans, sur la une de Le Monde si on fait pas.
Bon. Mais c'est encore plus visible sur le front que sur le back. Le back, bon, ça reste. Ça peut s'attaquer le bac, mais c'est toujours moins accessible que le front, si tu mets pas à jour. Enfin, on a bien vu le problème avec jQuery, etc.
Ça dépend beaucoup de tes utilisateurs. Tu vois, regarde, t'es consommateur de Google Analytics. Donc, t'as des API, t'as un petit JavaScript, machin, tu appelles tel truc, tel machin. Les gars, ils décident de changer l'API. Et toi, ça t'embête, tu l'as mis en place une fois sur ton site, t'as pas envie d'y revenir, et du coup, t'es obligé de retrouver comment faire marcher ton générateur de script statique ou je sais pas quoi, changer le machin, et on voit ça sur une toute petite API avec un espace,
on appelle ça restreint,
un espace hyper restreint. Les API web, elles sont en général beaucoup moins, avec une surface beaucoup plus faible que dans les langages. Et ça nous saoule. Donc je pense que faut vraiment comprendre quel est ton client, quel est ton utilisateur.
Ça dépend de quel côté tu es aussi. Si c'est toi qui est responsable de la maintenance, ou si t'es l'utilisateur.
Mais tu vois, Kubernetes, c'est un exemple où le gars dit, une des valeurs de Kubernetes, ça a été de pas céder à cette tentation. On refactore les API et les machins. On a des nouvelles API, mais idéalement, on casse pas ce qu'il y a derrière pour que l'écosystème puisse grossir et il y ait cette stabilité. Alors, bon, ça reste jeune, hein, on verra jusqu'à quand ils tiennent le truc, mais voilà.
Ok, et donc après, il y avait... Alors après, je vous ai mis un talk qui a été donné à Mixit cette année, qui s'appelle « Au-delà des couleurs, des interfaces adaptées au daltonisme ». Donc, c'est un talk de Laura Vacrenier, qui est designer chez SonarSource. Et c'est hyper intéressant. Alors, moi, elle m'a bluffé parce que c'est son premier talk. Et je sais, parce que c'est une animatrice de DevOps for Kids, qu'elle stressait. Et franchement, Laura, mais t'as tout déchiré. C'était trop bien. J'ai adoré. Alors, c'est super intéressant parce que Laura, elle vient pas du monde logiciel. Donc, elle est arrivée chez Sonar. Elle découvre le monde logiciel. Elle comprend pas ce que fait Sonar Source. C'est normal.
Ok, vous voyez pas le rouge et le vert.
Même nous, on comprend pas. ce que Sonar Source fait.
Donc, il y a beaucoup moins de femmes qui sont atteintes de daltonisme que d'hommes.
Oui. Oui, elle l'explique d'ailleurs.
Même pas 1%.
Il y a 0,5.
Il y a 10 fois plus d'hommes qui sont atteints de daltonisme que... C'est un truc de mec, ça.
Oui, parce qu'en fait, ça se pose sur le chromosome X. Mmh. Et donc, nous, on a plus de chances que le deuxième chromosome X ne soit pas impacté. Alors que vous, s'il est touché, c'est fichu. Voilà. Donc, comme elle arrive et qu'elle comprend pas à quoi sert Sonar, pour comprendre justement ce que ça fait, elle prend un dev avec elle et elle fait un test utilisateur. Et là, elle a pris notre ami Xavier. Et notre ami Xavier, il est daltonien.
Ah, excellent.
Et elle s'est rendue compte que... elle le savait pas. Elle le savait pas. Et donc, ils se sont rendus compte que l'interface n'était pas... ils le savaient, en fait, mais c'était jamais les priorités, etc. Et donc, elle explique déjà comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une interface qui fonctionne pour tout le monde. Donc, elle disait, c'est pas forcément... parce que c'est un dashboard, donc SonarSource, donc... C'est comme, il est fait comme n'importe quel dashboard, comme on en fait depuis je sais pas combien de temps. Mmh. Et donc t'as des indicateurs en vert et en rouge pour ça marche et ça marche pas.
Jenkins en bleu.
Et voilà.
Ça c'est culture japonaise.
Et elle expliquait que la couleur, quand elle est utilisée comme seul signifiant, ça fonctionne pas. Mmh. Donc on peut s'appuyer aussi sur des formes, des icônes, des labels, des textures, des choses comme ça. Elle parlait également de comment on fait pour convaincre son équipe, parce que quand elle l'a relevé, on lui a dit on s'en fout, c'est 5. Alors je crois que c'est 7% dans la population caucasienne, parce qu'il y a plus, c'est suivant les origines, le pourcentage est plus fort.
Ça, je sais pas.
Voilà. Elle explique tout ça. Moi, je l'ai appris avec Laura, tu vois. Et
parce que t'as les différents types en plus de daltonisme, donc c'est pas les mêmes couleurs.
Oui,
voilà, suivant la façon dont le
j'avais un copain qui s'appelle Noël, il était orange chez lui.
C'est ça.
Il s'est pris la tête avec quelqu'un dans un magasin parce qu'il voulait absolument le costume violet, mais en fait il était bleu.
Mais non, mais je veux le violet.
C'est assez cocasse.
C'est ça. Et sens, voilà, donc elle expliquait bah, comment est-ce que tu...
Caucasien.
Comment est-ce que tu arrives à convaincre
c'est
tout le
monde. C'est caucasien, hein.
Bon, pardon. Je vais jamais y arriver au bout. Eh, moi, je m'en fous, j'ai tout mon temps. Mais... et elle reprenait un truc qui est hyper intéressant, c'est Microsoft a mis en place de l'inclusive design, c'est-à-dire qu'ils sont partis du principe solve for one, extend to many. Et le principe, c'est que tu vas résoudre le problème pour une personne, mais en réalité, tu vas le résoudre pour tout le monde. Ouais, parce que...
Les principes, voilà. Qu'ils aiment bien.
Parce que, par exemple, la rampe et Laura prenait cet exemple que je trouve hyper parlant, la rampe d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, bah les parents en poussette, c'est cool aussi.
Et ouais.
Voilà. Et donc.
Après... Et ils ont des bons documents là-dessus, Microsoft, ouais. Avec des iconographies, etc. Ils ont partagé ça il y a. Je sais pas, enfin, c'est assez récent et c'est super.
Bah, c'est, voilà. En tout cas, la démarche est top. Et puis ouais, après, bah expliquer.
Non, mais il faut ouais, bah, parce que t'as une grosse boîte, tu
non,
mais ça,
c'est
une boîte, ça,
alors
ça,
justement,
ça coûte vachement.
C'est pas forcément
qu'une
question
de
moyens.
Je vois, en WCAG déjà, je te raconte pas la galère que c'est pour réussir.
Ouais, mais une fois que tu sais quelles sont les bonnes normes, etc., ça va malgré tout plus vite et c'est malgré tout plus inclusif que si tu ne t'y es pas intéressé.
Ouais, c'est bien de le faire.
C'est sûr,
ça
si tu veux le faire.
Non, mais justement, c'est ce qu'expliquait Laura dans la dernière partie de son talk, c'est qu'elle disait évidemment, si tu dis je fiche tout et je refactore tout, ça va te prendre trop longtemps. Donc eux, ce qu'ils ont fait, et que je trouve hyper bien, c'est que les comment dire, dans les critères d'acceptance d'une story, il y a une design review et la design review, elle a des critères d'accessibilité justement. Et ce qui fait qu'ils le font petit à petit, mais ce que disait Laura, et c'est assez vrai, en un an, t'es déjà passé sur pas mal d'endroits de ton application. Et donc, petit à petit, t'as rendu la majorité de ton application accessible à tout le monde. Donc, c'était vraiment cool.
Mais des fois, même ne serait-ce que... Enfin, je prends le truc de base, mais pour ceux qui ont des... On appelle ça les screen readers, quand t'es malvoyant. Ne serait-ce que toi, si dans tes images, quand tu mets une image dans ton appli web, tu mets ton alt qui va bien... Déjà ça améliore la vie, mais de manière incroyable pour ceux qui sont malvoyants.
Ça fait 12 ans qu'on le fait, mais on a
Et ça, il faut
des tests automatisés. Si t'en mets pas automatisés, ça sert à rien.
Mais ça coûte pas plus cher, forcément, de rajouter le halt. Tu vois, il y a plein de petites choses qui sont des quick wins, mais qui peuvent te permettre d'augmenter, mais de manière drastique, le support, l'accessibilité.
Oui, à Devox France, on avait eu cette dame malvoyante et elle nous a fait tester. Et c'est rigolo parce qu'elle dit, s'il vous plaît, lorsque vous faites un site, faites H1, H2, H3, H4 et faites du CSS, alors que toi, tu dis, bon, H2, c'est moche, allez, je mets du H3.
C'est ça. Et puis mettez la langue parce que sinon il y a la langue anglaise qui va essayer de parler des mots français.
C'est ce qui s'est passé avec le site de Devox France. C'était rigolo.
Et justement l'article que j'ai mis après, alors ça a l'air d'être l'opposé, c'est comment construire le site le plus inaccessible possible. Mais avec un score Lighthouse parfait.
Ouais. Alors, C'est ça le problème.
Lighthouse, si vous connaissez pas, c'est un outil qui va permettre d'évaluer un site web pour alors sur plein d'aspects. Il y a sur la performance, notamment évidemment les temps de réponse, etc.
C'est ça qui va évoluer, c'est...
Et donc il y a beaucoup de gens. L'auteur est parti du constat qu'il y avait beaucoup de gens qui tweetaient j'ai 100% sur Lighthouse, etc. Et le problème, c'est que c'est pas pour ça que le site il est accessible. Et là, ce qui est hyper intéressant dans la démarche, l'auteur prend une page vraiment toute simple, avec un texte de 2-3 emojis, mais très très simple au niveau du contenu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va la rendre de plus en plus inaccessible, tout en conservant son score de 100 dans Lighthouse. Donc il va commencer par rendre le chargement du CSS obligatoire, ensuite il va rendre celui du JavaScript obligatoire, ensuite il va utiliser un attribut qui justement... rend le site inaccessible pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran. Il va enlever le focus sur les éléments sélectionnables. Alors, il fait ça en 3 lignes de JS, en 3 lignes de CSS. Et ce qui fait que le site est plus accessible pour les personnes qui naviguent au clavier. Il continue comme ça, et donc à la fin, tu peux plus du tout naviguer, mais t'as toujours ça dans Lighthouse. Et il dit bien que l'article n'est pas du tout contre Lighthouse. C'est pas Lighthouse qui est en défaut. Un autre outil, il dit que c'est un très bon outil et que les autres, il arriverait à faire la même chose avec les autres. C'est plutôt que justement, c'est indiqué sur le site de Lighthouse, il n'y a qu'un sous-ensemble des critères d'accessibilité qui peuvent être testés automatiquement.
Exact.
Et donc, tu es obligé de faire des tests manuels. Voilà. Et ils ont carrément, je trouve ça génial, dans Lighthouse, il y a une page où ils répertorient les tests manuels à faire. Ils te disent ce qui doit être testé et comment le tester. Et donc là, tu peux t'assurer que ton site, il est vraiment accessible. Voilà. Ensuite, HTML can do that. Alors ça, c'est super rapide à lire et j'ai trouvé, il est trop bien. C'est donc l'auteur parce que c'est une femme qui va montrer un tas de composants qu'on peut faire simplement en HTML et moi je savais pas pour certains. Donc il y a un menu déroulant, il y a une dialog box, il y a une barre de progression, il y a comment montrer, cacher des blocs de détails, afficher le pod qui convient en fonction de l'input du champ, si vous êtes sur un mail, un téléphone, etc. Comment ajouter un color picker, surligner du texte, créer un lien direct pour les numéros de téléphone comme on le fait avec les mails, montrer les insertions, suppression de texte, éditer le contenu d'une page. Enfin, c'est super rigolo. C'est, ça se lit très très vite.
On va rajouter le lien parce que je crois que tu l'as mis que de ce notre.
Non. Ah bon je l'avais, si, si.
Ah, j'ai peut-être pas.
Autant pour sinon, moi. Je rajouterai.
Je l'ai, donc bon, c'était là.
Voilà. Et puis ensuite, alors là, c'est plus dans le développement web, mais ouais, plutôt dans les outils web. Firefox avait développé un module de protection contre le tracking par cookies, pardon, qui va maintenant être activé par défaut dès la première utilisation. Donc, ça va protéger même les nouveaux utilisateurs. Il y a également une release du Facebook Container. Donc, c'est le container qui bloque les envois de données à Facebook avec les boutons like et partage. Il y a également Firefox Lockbox qui devient Firefox Lockwise. Donc, c'est un outil de gestion de mots de passe. Il était disponible sur iOS et Android. Maintenant, il est également disponible.
C'est séparé de Firefox ou c'est dans le navigateur?
C'est dans le navigateur.
Il y a une histoire pour les gens qui utilisent l'enregistrement des mots de passe dans les navigateurs là, et surtout qui se synchronisent après avec votre cloud provider, etc. Mais c'est sécurisé parce que c'est encrypté, etc. Il faut faire attention parce que si quelqu'un trouve justement votre compte Gmail ou votre compte Firefox, après il a accès à tout en fait. Donc il y a la notion d'avoir ces mots de passe off. En fait, un intérêt assez important.
J'avais eu une formation sécurité chez Sagi, justement, il y a un presta qui s'occupe que de la sécu, des audits de sécu, etc. Et il nous avait fait une formation sur cette partie-là. Et il recommande malgré tout l'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe externe, mais avec une authentification à deux facteurs. Parce qu'ils disent que malgré tout, si tu veux, moi j'ai ça, et tous mes mots de passe sont générés aléatoirement, je les fais générer automatiquement, donc ils ont 15 caractères, des caractères spéciaux, etc. Et ça reste plus, malgré tout, plus sécure d'avoir ça et une authentification de facteurs que...
Ouais.
Voilà. Et puis, en dernier, il y avait, il y a Firefox Monitor, vous l'avez peut-être vu passer. Firefox Monitor, ça vous permet de savoir si votre adresse email a été impactée par une faille de sécu dans un des sites que vous utilisez. Si vous utilisez Dropbox ou je ne sais pas quel autre service qui à un moment a connu une faille de sécurité. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, Firefox Monitor supporte du multicompte. Donc, vous allez pouvoir lui donner plusieurs comptes mail et il vous dira dans quoi ils ont été, dans quel fichier ils ont été.
Vous donnez votre mot de passe aussi, et comme ça, il vérifie partout, il n'y a pas de souci.
Non, c'est un partenariat avec un Ivin Pound.
Et il est, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de dire si c'est...
C'est la même base. Ouais.
Il est capable de dire si c'est le mail qui a été récupéré, si c'est le mot de passe qui a été récupéré, si c'est le combi, etc. Enfin, c'est super bien fait. Et puis, il y a Google qui se fait un peu taper dessus et qui va complètement
c'est
à l'opposé. Alors, il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est qu'il y a un manifeste V3 de Chrome qui introduit... Alors, il y a une nouvelle API qui va arriver, une API Declarative Net Request, qui viendrait se substituer à l'API Web Request. Le problème, c'est que l'API Web Request, elle est utilisée par les adblockers. Alors, la justification technique, c'est que le remplacement, il serait fait pour des questions de sécurité et de performance, parce qu'effectivement, le problème, c'est que ces extensions, elles scannent toute ta page, hein, donc c'est pas terrible. Mais là où ça a fait tiquer, c'est que l'API Rep Request ne serait pas supprimée, mais son usage serait restreint au déploiement d'entreprise. Et donc là, ce qu'il disait dans l'article, et qui est assez vrai, c'est que tu arrives au moment où émerge le conflit d'intérêts entre je fournis des outils qui sont super bien, c'est pas la question, mais le cœur de mon activité financière reste la publicité. Et l'autre problème, c'est
l'interprétation que les gens en ont fait.
Oui, mais ça c'est toujours... quand t'as une force de frappe comme celle de Google, ça reste toujours... Et justement, l'autre problème, c'est le reCAPTCHA, puisque vous avez tous un jour galéré avec un CAPTCHA qui vous demandait de mettre tous les feux rouges et tous les chats et tous les machins, etc. Et donc là, avec la V3 du reCAPTCHA...
Alors, si tu nous écoutes, je n'ai pas de CAPTCHA, parce que je suis considéré comme un robot tout le temps.
Je supporte plus.
Je crois qu'il est rangé maintenant, ce truc-là, les gars. Je crois qu'il n'y a plus le truc sur Air France. Il était béni, tu vois.
Bah, il était il n'y a pas longtemps, en tout cas.
Ah ouais, je sais pas.
Pour moi.
Je crois qu'il était...
Et donc, avec la V3, bah, l'utilisateur verra.
Tu sais par que lettre achat, je suis désolé.
Bah, ça, mais faut
non, mais t'en as qui sont, t'en as où il faut saisir du texte et c'est impossible
d'aller. Ah, les textes, c'est insupportable. Voilà. Ceux qui ont que le texte.
Et donc là, l'utilisateur verra plus rien parce que ce qui va se passer, c'est que Google va utiliser du machine learning pour déterminer si la façon dont l'utilisateur navigue est humaine et en fonction leur assigner un score de risque. Alors évidemment les détails.
Ah, ça fait bah, dernier, ouais, c'est celui où tu cliques et qu'il y a pas, il y a rien à faire.
Robot,
c'est celui
là,
que tu, en bas, je suis pas un robot là. En fait, celui qui fait rien.
Il n'est pas encore intégré partout, mais il va l'être progressivement. Et le problème, c'est que bon, évidemment, on connaît pas les détails qui sont pris en compte pour déterminer le score, parce que sinon, on pourrait pirater le système. Mais il y a plusieurs choses qui posent problème. Déjà, c'est que l'IA, a priori, se base sur la détection d'un cookie qui correspond à un compte Google. C'est-à-dire que si le compte, quand vous êtes logué avec votre compte Google, il y a un cookie de déposé, le système va regarder, la lib, elle va regarder que ce cookie est présent. S'il est présent, bah, vous avez un compte Google, vous êtes un être humain.
Non, c'est pas comme ça, mais du coup, ils savent, ils vont regarder si c'est connecté de 5000 endroits au même moment. Enfin,
oui,
donc, ils ont
voilà.
plus d'informations, ils peuvent avoir plus confiance en toi, de base, donc ton score gagne.
Mais ça fait que si tu n'es pas connecté, ben t'as un mauvais score t'as, par défaut. Ouais. Donc ça, ça pose un problème.
C'est peut-être pour ça en fait que j'ai
Il y a aussi le problème que pour fonctionner, le code doit être embarqué dans toutes les pages, parce que finalement, l'algo de ML, il va apprendre sur la façon de naviguer des utilisateurs sur tout le site. Et là, on retrouve le problème que on a avec Facebook et le bouton like et le bouton partage, c'est que d'un coup, c'est tout l'historique de navigation qui est envoyé de manière beaucoup plus fine à Google. Et évidemment, officiellement,
avec Analytics.
Oui. Et officiellement, ça concerne que les infos qui concernent les devices et les applications, et c'est utilisé dans le combat contre le spam, etc. Mais bon, c'est toujours pareil, ça pose un peu problème. Donc voilà, j'ai fini.
C'est bon, tu peux revenir.
Réveillons-nous.
On va passer à la donnée. Et il y a un article sur les, en fait, une équipe qui a équipe normale, j'ai envie de dire, qui est passée à l'event sourcing et qui du coup a ramené un peu, enfin, expliqué ses erreurs et les choses qu'ils ont fait pour mitiger. Alors déjà, ils avaient démarré doucement, ils se sont dit bon, on va faire incrémentalement, puis on va voir après. Du coup, dans la même base de données, ils avaient ce qu'on appelle leur projection, c'est-à-dire la dernière version de la donnée, ce que vous estimez être dans une base de données de manière classique, et la liste des changements. Alors, ils expliquent pas pourquoi pour eux, au final, ils ont confirmé que c'était une erreur pour eux, mais en tout cas, c'était un des choses.
L'article
qu'ils ont
de
décidé
Nat Price, celui-là, c'est ça.
C'est un article de Mistake. Non, ah, ça c'est écrit okay. très mal.
Parce qu'il y a Nat Price qui avait de Forfor, je crois, et qui avait un feedback similaire où il réexpliquait justement pourquoi, en fait, il faisait plus de l'event oriented en pensant en faire de l'event sourcing.
Ouais,
et après,
voilà,
comment
c'est
ils
les...
ont.
Bah, c'est exactement ça doit être celui, le même problème.
Donc,
c'est que,
Donc, ils ont. L'autre point, c'est effectivement, ils avaient un peu mélangé event driven
voilà,
et event sourcing.
Ouais.
Event driven, c'est j'envoie un événement, ce qui fait qu'un système va réagir à cet événement. C'est souvent, ça peut être des aspects techniques notamment. Event sourcing, c'est je fais un changement, je log ce truc-là et d'autres vont pouvoir travailler fonctionnellement sur cette stack d'événements.
Et puis surtout, vraiment, un des trucs qui est hyper important, c'est que tu n'as jamais l'état final. C'est l'état de ton entité, tu l'as déduit en rejoignant tout l'historique.
C'est l'agrégation de l'historique.
Tu peux, en tout cas, ouais.
Voilà, c'est la philosophie. Donc c'est là où effectivement le fait de stocker directement l'état final de l'entité était une erreur. Enfin, c'est que tu fais de l'event driven et pas de l'event sourcing.
Quand ils mettaient tout dans la même base. Ouais, après ça se comprend parce que ça t'évite à gérer la double écriture dans des systèmes différents qui posent d'autres problèmes, etc. Et du coup, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que en confondant la notion d'event driven et d'event source, ils s'étaient mis à utiliser l'event store qui permet de stocker tous les changements d'état, enfin oui, je vais appeler ça comme ça, en tant que bus d'événements, en fait, et donc en tant que message oriented middleware plutôt que sa fonction cœur. Donc ils ont décidé de renommer, c'était des business events versus d'autres événements
du tech event, voilà.
Ce qui les a aidés. Ils sont allés un peu loin sur la, je me rappelle plus comment on traduit ça, mais la eventual consistency, donc la consistance, j'ai écrit ça au bout du compte, mais je ne me rappelle plus le nom officiel. Voilà. Du coup, ils ont, en termes d'options, ils sont passés du modèle relationnel à des blobs JSON qui représentent les fameuses projections de leur état, parce que ça vous permet d'aller quand même plus vite de projeter les états plutôt que de les rejouer à partir de l'ensemble des événements. Et un truc qui les a aidés, c'est qu'ils utilisaient l'archi hexagonale. Donc ce passage à, je vais utiliser l'event source avec des événements qui après vont être transformés, ça a été assez séparé du reste de leur application et ça a été un peu plus simple pour eux en termes de migration. Voilà, donc si ça vous titille ou vous êtes en chemin là-dedans, c'est peut-être un article intéressant à aller regarder. On va parler de l'outillage.
Ouais, alors une petite fonctionnalité toute bête dans GitHub, mais super sympa. Quand vous avez une grosse merge request à relire, vous pouvez parfois ne pas la faire en une seule fois. Vous allez être interrompu.
C'est une merde request, quoi, en fait.
C'est ça,
oui. En plus, c'est une pull request.
Oui, parce que merde GitHub, request, c'est
GitHub. GitHub. Bah oui, je suis désolée. Je sors de 1 an et demi de GitLab. Et là, on va pouvoir, en fait, on a une simple case à cocher sur la ligne qui correspond au fichier. On va pouvoir dire que celui-ci, on l'a déjà relu. Et je trouve ça pas mal parce que, bon, en général, moi, ce qui se passe, c'est que je vais checker-outer le code en local parce que souvent, quand elles sont grosses comme ça, tu peux pas juste avec la relecture dans l'application, ouais, tu peux pas la relire. En fait, il faut que tu mettes. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir les tests et les machins à côté. Mais c'est vrai que tu veux pouvoir identifier les fichiers que tu as déjà validés. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà.
Moi, je trouve toujours que leur idée de activer une revue. Donc, déjà, c'est plusieurs fois, j'ai oublié de dire, ça y est, je le publie. Donc, ce qui fait que mes propositions, en fait, elles étaient
restées. J'ai arrivé, ça aussi, ouais. De commenter, mais d'oublier de publier le, je sais pas comment t'appelles ça à la fin. Ouais.
Et puis, de pour approuver, parce que là, on a en Quarkus, faut que ça soit approuvé et que la CI passe pour qu'on puisse le pousser.
Mais avec les checks.
Si t'es admin, voilà. Et du coup, pour approuver, c'est assez bizarre. Faut aller sur fichier, dire, ouais, c'est bon, j'ai vu, approuver. Des fois, on sait, on approuve, on voit conceptuellement ce qui a été fait sans aller sur chaque fichier, donc sans aller sur le deuxième table.
La vue fichier.
Et donc, c'est un peu pénible je trouve qu'ils sont pas complètement réussis là-dessus encore. Donc, mais j'espère qu'ils continueront à améliorer ces fonctionnalités. Sinon, un ensemble d'articles au niveau architecture sur les diagrammes UML avec plante UML. Donc, un des problèmes du diagramme UML, c'est qu'effectivement, on peut pas le committer dans Git à côté du code, etc. Ouais. Et plante UML, c'est une représentation ASCII, des diagrammes UML. Sauf que quand on l'utilise pas tous les jours, alors toi, tu l'utilises souvent dans tes bouquins et tes machins, mais quand on l'utilise pas tous les jours, c'est assez facile d'oublier un peu la syntaxe. Et donc il y a un article qui réexplique pourquoi plante UML c'est plutôt sympa.
Et c'est vrai que c'est à côté du code, donc l'architecture change, le diagramme il évolue, tu peux retrouver la V1, la V2, la V3. Ouais. Enfin, moi je suis super fan.
Voilà, et puis il y a notamment un site web qui s'appelle realworldplanteuml.com avec des tirets à certains endroits qui permet justement quand on se rappelle plus la syntaxe de regarder ah tiens celui-là ressemble à celui ce que je veux faire. On clique, on voit le code, et puis du coup, après, on peut adapter, donc ça permet d'aller plus vite là-dessus, c'est intéressant.
C'est vrai qu'il est super bien fait, et puis un des trucs un peu complexes quand même avec plante UML, c'est quand vous voulez vraiment, vous êtes plus sur un livre, donc vous voulez du vertical ou sur un blog, plus de l'horizontal, bref. Ce qui est un peu compliqué avec plante UML, c'est quand on veut avoir les boîtes l'une à côté des autres, ou l'une sous les autres, et l'autre à côté, et l'autre en dessous. Et là, il a pas mal d'exemples un peu tordus comme ça, où t'en as 4 à droite, 5 en bas. Voilà, ça peut paraître bidon, mais c'est super compliqué.
Pour faire une croix inversée. Genre. méthodologie, on va chauffer sur les pour arriver aux lois sociétés. Méthodologie, il y a un article sur pourquoi les anciennes sociétés ont en IT pas aussi glamour que dans la Silicon Valley et pourquoi il faut pas dire mais c'est parce qu'ils sont pas modernes dans leur approche agile et machin. Et donc il explique qu'avant lui travaillait dans les startups et que voilà, il se disait c'est vraiment tous des cons dans les grosses boîtes et puis il a fini par des divers achats et de se retrouver dans une grosse boîte et d'essayer de comprendre l'histoire et que il était sur un projet et au bout de 6 mois, ils n'avaient toujours pas sorti leur API. Et le mec, il a dit, c'est une API, vous mettez 6 mois, mais ça vous prend une journée normalement, c'est quoi le problème? Et donc, ce qu'il s'est aperçu, c'est que la boîte, elle est là. Si elle a du succès, elle se met à racheter un peu des concurrents. Ensuite, il y a des cycles de centralisation, de décentralisation. Et ce qui fait que...
On peut peut-être préciser, en termes de taille, on est en train de parler de boîte de... C'était quoi le chiffre?
Oh, bah là, c'est du genre, il l'a pas dit, mais c'est genre Rentecar ou les, c'est voilà. Des grosses boîtes, quoi.
Ouais. Du, bah, même, enfin, plus gros et plus vieux que ça, parce que c'est une société qui a 30 ans, je crois. Dans ans ce qui... Ah oui, mais oui, d'ailleurs, oui, t'as raison. Je me demandais si c'était pas IBM ou.
Okay, bah, je crois, ans, je
pas. Parce qu'il la cite pas, mais voilà. Ouais, il y a quelques... Mais bon, on est sur ce genre de.
Alcatel.
On est sur ce genre de boîte.
Et donc, il y a ces changements de cap qui sont faits au niveau de la durée de vie d'un CEO ou d'un CTO qui est quand même assez court. Et donc, les gens, ils sont là sur 5, 6, 7 CTO. Donc, ils se disent à un moment, bon, je vais peut-être... en fait, la donnée notamment ou l'API qui expose ces données, il y a une notion de pouvoir et de maintenance de ce truc-là. Donc, si tu t'acceptes le changement, mais qu'après, ça te fout dans la merde 4 ans après, mais le mec, il s'en fout parce qu'il est parti, celui qui a fait cette décision. Donc, il y a une notion de les gens qui se font quand même moins confiance, en fait, entre les différentes entités. Il y a l'externalisation. Donc, les années 90, on externalise tout ce qui n'est pas cœur de métier. Et ben, après, les fournisseurs, ben, ils ont le contrat et ça les intéresse pas forcément de faire votre nouvelle API pour après que vous pluguiez votre API à celle-là. Donc, vous êtes un peu coincé. Et donc, pour lui, ça...
On parlait un peu avec Boeing tout à l'heure, je crois. Non,
ouais. Après, tu arrives avec finalement un problème de confiance. L'agilité au niveau de la boîte, il est quand même basé sur la confiance. Et donc, c'est facile dans une startup de... Alors, lui, il dit 5 personnes, mais on peut l'étendre à 50, 70 personnes où chacun se connaît.
Ouais.
En fait, tu vois tous les gens ouais. En gros tous les jours et tu connais leurs prénoms. C'est différent sur 70 000.
Mais t'en parlais tout à l'heure. Enfin, je sais pas si c'était une référence voulue ou pas, mais le fameux livre La cathédrale et le bazar, c'est le gars qui rejoint un peu l'équipe Linux. Et là, on est au tout début et il comprend pas ce bazar. Et puis il rentre dedans, il commence sa comité, etc. Alors que lui, il bosse pour une cathédrale. Et le livre est pas mal parce que c'est en fait, on se rend compte que le bazar a besoin de la cathédrale et la cathédrale a besoin aussi du bazar. Donc voilà, c'est un vieux livre des années 90 pour le coup que je vous conseille.
Ouais.
Il y a la version de Souk et la mosquée aussi, mais c'est
Un peu rapidement, en sécurité, il y a Elasticsearch qui est sorti.
Oui, Security Information and Event Management. C'est donc la gestion des événements et des informations de sécurité. Ça a été lancé en bêta dans Elastic 7.2, donc c'est déjà dispo gratuitement. Et c'est un nouvel outil dédié à la sécu qui va permettre de catégoriser les événements, d'annoter ceux qui sont pertinents, de mettre des commentaires, etc. Il y a une interface dédiée dans Kibana avec par exemple une vue haute, une vue network. Et puis il y a un afficheur d'événements Timeline Event Viewer qui va permettre aux analystes de créer le filtre de recherche qu'ils souhaitent, d'épingler justement, d'annoter les événements qu'ils détectent comme étant anormaux, de commenter, et que ce soit partagé, etc.
Alors on va passer sur loi, société et organisation. Déjà il y a un rapport de... Pas le CETA, enfin bref, de...
Oui alors...
Un truc paritaire, enfin un truc de des chambres... Non, comment ça s'appelle ? Pas exécutif, mais législatif. Ouais. Un rapport sur les lois extraterritoriales américaines. On voit qu'il y a des lois américaines qui disent, ben voilà, si d'une manière ou d'une autre, vous avez une filiale aux États-Unis ou votre flux passe par les États-Unis, même si vous voulez aller de pays A vers pays B, qui n'a pas de rapport avec les États-Unis, en fait, les lois américaines s'appliquent et donc... On se met à parler d'amendes qui sont assez fortes. Là, les exemples qu'ils donnent, c'est beaucoup des banques. Et eux, ce qu'ils estiment, c'est que ça a une grande portée, même au-delà de la sphère américaine, que les sanctions ont tendance à être disproportionnées. Et que, notamment du fait qu'il y a ce phénomène de discovery dans la loi américaine, où on est censé montrer toutes les preuves qu'on a, à la partie défendante ou attaquante, il y a beaucoup d'informations qui est passée. Donc eux, ils estiment que c'est quand même un outil économique de assez fort pour en fait orienter ou espionner sur la concurrence. Et du coup, ils proposent des choses pour compenser ça au niveau de la loi française pour limiter un peu ce déplumage entre guillemets. Alors moi je trouve ça intéressant. Il y a un petit contrepoint, toutes les lois que j'ai vues anti-corruption, que ce soit en Allemagne mais surtout aux États-Unis, le fait qu'elles soient devenues utilisées, c'est aussi à cause de cette extraterritorialité. Donc le fait que on soit plus pas se dire bah, tiens, je vais créer une filiale ici qui va avoir une filiale en Ouganda et puis ça va bien se passer les trucs sous le tapis, et ça va bien se passer. Bah ça c'est fini parce qu'on remonte jusqu'en haut. Donc maintenant les sociétés elles font gaffe. Donc il y a eu quand même des aspects positifs à ces lois extraterritoriales qui est du. Ben, tu parlais de Google, mais c'est pas de l'abus de pouvoir, mais c'est effectivement il y a un poids et du coup un leverage qui est existant. Là, il parlait plutôt d'un outil économique en fait que les Américains utilisent.
Ouais. Ensuite, vous avez certainement entendu parler des problèmes du Boeing 737 MAX 8, à savoir qu'il y a eu deux crashs en octobre et en mars. Alors c'est un avion qui est très très récent. Et on sait que les deux crashs sont dus à une défaillance logicielle. Ça, on s'en doutait depuis le départ. A priori, ça venait d'un capteur défaillant qui rendait l'appareil impossible à piloter. Et puis, il y avait un deuxième problème, puisqu'il y avait... donc, normalement, ce système-là aurait dû être redondant, et c'était pas le cas. Et en plus, il aurait dû avoir un voyant qui alertait les pilotes sur le non-fonctionnement, justement, de ce composant, et le voyant n'était pas là. Et là, on a découvert que, a priori, sur les parties du code qui sont incriminées, Boeing aurait eu recours à des prestataires de services à 9 $ de l'heure en Inde, sachant que le salaire moyen d'un Américain, c'est entre 35 et 40 $ de l'heure. Il y a des chiffres qui tournent qui seraient, ce serait 30% du code qui serait actuellement outsourcé. En Europe, on serait plutôt sur 10%. Et alors là où c'est subtil, c'est que bien sûr il y aurait un premier choix de rentabilité, mais qui serait pas la seule explication. Il y a aussi le fait que je crois que c'est 2015, Boeing a signé un gros contrat d'une centaine d'appareils en Inde, alors qu'en Inde ils achetaient plutôt des Airbus traditionnellement, contre la promesse d'investir dans des compagnies indiennes.
Ouais, après ça a toujours été ça. Enfin, dans l'industrie de l'aviation et militaire, ça a toujours été des magouilles comme ça.
En Chine, par exemple, Airbus avait réussi à signer en promettant d'installer des usines. C'est-à-dire que les Airbus qui volent en Chine ont été produits en Chine. Donc effectivement, et donc le problème, c'est que c'est pas le problème des développeurs indiens, c'est que c'est des sociétés de développement qui n'ont pas une culture et une expérience en aéronautique. Et puis de toute façon, on sait très bien que outsourcer, nous développeurs, on le sait, que outsourcer une partie du code, ça ne marche pas pour des raisons culturelles. Ce qui a été remonté effectivement par des ingénieurs qui ont témoigné et qui ont attesté qu'il y avait eu beaucoup de pression en interne pour réduire tous les coûts de production. Ils avaient demandé, par exemple, de trouver des petits contournements plutôt que de fixer des trucs, les buts étant de pas retarder les tests de vol, parce que les retarder, ça leur coûte extrêmement cher. Et puis là, dernièrement, il y a l'administration d'aviation fédérale qui a identifié un problème qui est encore plus grave, c'est qu'il y aurait un chip dont le fonctionnement est défaillant en cas de surcharge de données. Donc là, ils sont vraiment, vraiment mal barrés. Les avions sont immobilisés depuis mars, je crois.
Sur le parking des employés, ils ne savent plus où les mettre, ceux qu'ils ont construits, d'ailleurs.
C'est
les
ça.
Nouveaux qui sont en train d'être construits. Ouais. Les employés ne peuvent plus se garer sur leur parking.
Parce qu'ils sont en train d'utiliser
les parkings pour garer leurs 737.
Voilà. Et il y a le créateur de Ruby on Rails a fait un tweet qui était génial où il dit que Google et Facebook payent leurs ingénieurs infiniment plus pour induire les internautes à cliquer sur des pubs que Boeing pour écrire les softs de leurs avions. Voilà. Et en parlant de Facebook, on va parler de Libra. Alors Libra, qui n'est pas la monnaie de Facebook, Libra c'est une blockchain partiellement décentralisée qui va être gérée par une ONG suisse qui est nommée Association Libra, qui est présidé par un conseil de 28 acteurs, alors dont Facebook, mais aussi PayPal, Uber, Mastercard, Spotify, Stripe.
Iliad, en France.
Oui. Voilà. Xavier Niel a mis des billes. C'est une crypto-monnaie qui a été pensée pour être stable, c'est-à-dire en opposition au Bitcoin, dont les flux ont tendance à s'envoler ou au contraire à dégringoler, et qui est pensée pour être utilisable par des gens qui n'ont pas accès à un compte bancaire. À l'heure actuelle, c'est 1,7 milliard de personnes dans le monde, sachant que sur ces 1,7 milliard de personnes dans le monde, il y en a 1 milliard d'entre elles qui ont un smartphone. Donc on va pouvoir l'utiliser soit pour régler des services, mais aussi pour envoyer de l'argent entre particuliers. Point de vue technique, c'est la blockchain qui va être utilisée, c'est pas une chaîne de blocs, parce que les transactions vont être transmises une par une au bloc validateur, ce qui va permettre d'être plus performant qu'avec la blockchain traditionnelle. La blockchain traditionnelle, elle envoie par bloc de 100. C'est 1000 transactions par... Attends, je me remets. Le Libra, il devrait gérer 1000 transactions par seconde au lieu de 7.
J'irai 1000 fois 1000.
Au lieu de 7 avec la blockchain classique qui crée des blocs, elle, toutes les 10 minutes et dont la taille est limitée à 1 mégaoctet. Le registre est jetable, c'est-à-dire que les nœuds utilisent de toute façon que le dernier bloc de la chaîne pour valider les transactions, la transaction suivante, et c'est à l'opérateur de décider s'il conserve le registre ou pas, dont le point actuel est un problème sur la blockchain traditionnelle puisqu'il fait 210 gigas à l'heure actuelle. Et puis, l'autre spécification, c'est que la validation des transactions sera confiée uniquement aux entreprises qui siègent au conseil de la Libra. C'est l'approche proof of stake en opposition à l'approche proof of work. C'est-à-dire qu'en blockchain traditionnelle.
Si t'es végétarien, t'aimes pas les proof of stake, c'est ça?
Ah ben, moi, je peux pas le faire. voilà. Parce qu'en fait, en approche traditionnelle, les ordinateurs.
Tu n'as pas 100 000 boules à mettre sur la table. ça tombe bien.
C'est pas.
10 millions, monsieur!
10 millions. il en est où, notre patron?
Il m'en manque 9, c'est con.
Patreon, si vous nous entendez.
Donc, dans une approche traditionnelle, les ordinateurs entrent en compétition pour miner le Bitcoin, ce qui pose aujourd'hui des gros problèmes, d'ailleurs, énergivore et chronophage également. Et là, de toute façon, c'est que les ordinateurs des entreprises qui siègent et qui, pour être éligibles à siéger, il faut être dans la liste des Fortune 500. C'est-à-dire que les États sont exclus, de fait, de l'association Libra, à l'heure actuelle. Et l'organisation veut travailler, enfin l'association veut travailler avec la communauté pour avoir un système plus décentralisé d'ici 5 ans. Donc il faudrait quand même avoir un certain montant de Libra pour pouvoir. Alors il y a plusieurs problèmes qui se profilent. Il y a le problème de la stabilité de la monnaie qui a été évaluée, mais là c'est une crypto-monnaie qui est à taux fixe, c'est-à-dire qu'elle est adossée sur des devises étrangères, ce qui ne la rend pas dépendante ni à une seule devise ni à des cours inflationnistes comme c'est le cas avec le Bitcoin traditionnel. Et globalement, on devrait pas avoir trop de problèmes avec le fait, parce que quand on s'adosse comme ça sur des devises, normalement, on est censé avoir en devise le montant qu'on a émis, le montant équivalent à ce qu'on a émis en crypto-monnaie. Là, ce qui va se passer, c'est que justement, les 10 millions qui sont mis, qui sont investis par chaque membre fondateur, vont être réinvestis dans des actifs à faible risque. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des titres qui sont émis par les gouvernements, donc soit sur de l'économie, sur de la devise, des choses comme ça. Donc, des choses qui restent très, très stables. Et puis, sur le papier, c'est l'association Libra, justement, qui doit jouer le rôle d'autorité financière. Mais bon, tant qu'il n'y a pas d'audit effectué indépendamment, c'est toujours un peu difficile de garantir que c'est propre, mais bon. Il y a un deuxième problème, c'est le fait de connaître ses clients. C'est-à-dire qu'une banque, quand vous ouvrez un compte, elle vous demande, elle se renseigne sur votre identité, elle essaye de prouver que vous êtes qui vous prétendez être. Et là, finalement, quand tu achètes du Libra, voilà. Et le problème, c'est que tu peux participer à du financement d'activités illicites ou à du blanchiment d'argent comme ça. Et l'inquiétude qui est élevée, c'est que dans le projet Libra, il n'y a rien à ce sujet et que, a priori, ce serait aux implémentations de s'en occuper. Il y a aussi le problème de confidentialité des données financières, puisque le principe de base d'une crypto-monnaie, c'est que les transactions, elles sont écrites noir sur blanc. On sait comment l'argent a circulé, etc. On connaît la chaîne des transactions. Et là, comme les implémentations, elles vont être propres à des compagnies privées, ça veut dire que vous donnez tout votre historique de paiement à des compagnies privées.
Pas comme les banques.
Oui, mais la banque, c'est son rôle, et la banque, elle a des accréditations pour tout ce qui est, enfin, ça c'est pas sur la partie prêt, etc., mais ça reste un organisme.
Bon, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau rôle à créer? Enfin,
et
une nouvelle chose à créer avec un modèle comme ça?
Donc là, pour terminer dans les craintes, la crainte, c'est Facebook, la crainte principale. Donc, on l'a dit, il y a une question d'implémentation, c'est-à-dire que le projet Libra, c'est les specs, finalement, et que chaque entreprise qui est participante et qui est dans le comité décisionnel va pouvoir émettre sa propre monnaie. Donc, Facebook a annoncé en 2020 lancer le Calibra, qui est un porte-monnaie numérique qui va être disponible dans ses applications, dans Facebook, dans Messenger, Instagram et WhatsApp. Et ils ont d'ores et déjà promis que Calibra, ce serait une société à part, qui partagerait pas les données, qui ferait pas un croisement en fait entre les données financières et les données de profil, etc. Mais comme c'est Facebook et qu'ils sont pas très très bons sur la vie privée, forcément, ça rassure moyennement. Il y avait une autre crainte qui était que Facebook prenne la main sur l'association Libra. En théorie, c'est prévu et on est préservé de ça, puisque chaque entreprise, chaque membre ne peut pas avoir plus de 1% du droit de vote, quelle que soit sa contribution financière. Maintenant, Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, ce qui leur donne des leviers d'action que vont pas forcément avoir les autres compétiteurs.
C'est voilà. Dommage parce que le projet paraît être intéressant. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai acheté des bitcoins à l'époque et du litecoin juste pour spéculer et me faire de la thune, quoi. Tu vois, ça sert à rien. Là, ça avait l'air d'être un peu plus intéressant, tu vois.
Il y a des peurs aussi.
C'est vraiment une monnaie stable.
Certaines économies où il n'y a pas de marché financier stable, etc.
Ouais.
D'autres impacts.
Ouais, mais encore ça, ça arrive déjà parce qu'il y a, il y a beaucoup de pays où, en fait, ils utilisent le dollar. Les gens, ils te disent, moi, je paye en US dollar plutôt que la monnaie locale. Et du coup, ça
bouge trop, justement.
Il y a une spirale négative. C'est inhérent à l'instabilité
du pays. Ouais, tout à fait.
Vas-y.
Et donc, il y a eu la loi N qui a été examinée à l'Assemblée nationale.
La loi N.
N comme Norbert ou...
N comme Norbert.
Alors, loi contre la haine sur Internet.
Pour la haine, c'est pour...
contre la haine sur Internet, qui a été analysée, qui est examinée, en fait, depuis deux jours à l'Assemblée nationale. Le vote des amendements a commencé hier, le 4. Et cette loi, elle pose beaucoup de problèmes, puisqu'en fait, elle va déléguer aux réseaux sociaux, pardon, la responsabilité de retirer, de censurer du contenu qui lui est signalé. Et donc, y a évidemment plusieurs problèmes qui arrivent avec ça. Alors, c'est net qui a été dénoncé par... C'est une loi qui a été dénoncée par la Ligue des droits de l'homme, Internet sans frontières, la Fondation Internet Nouvelle Génération, le Conseil national des barreaux, Renaissance numérique, même le Conseil national du numérique est contre. Pour rappel, le Conseil national du numérique, il a pour rôle de conseiller l'État sur tout sujet relatif au numérique ayant un impact sur la société et l'économie.
Comme quoi, il est bien écouté.
Voilà. Ils ont adressé une lettre au gouvernement, aux parlementaires, aux défenseurs des droits et au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Mais bon, clairement, ils vont pas être écoutés. Donc le problème, c'est que on confie aux réseaux sociaux l'obligation de suppression de contenu haineux. Et s'ils le font pas, ils encourent une amende qui peut s'élever à 4% du chiffre d'affaires mondial, donc un peu le système similaire au RGPD, s'ils ne suppriment pas sous 24 heures. Et effectivement, si l'intention peut paraître louable, en fait, là, on est en train de laisser la régulation de la liberté d'expression à des opérateurs privés. On est en train d'enlever l'intervention du juge judiciaire qui, lui, normalement, est garant constitutionnellement des libertés fondamentales. Et donc, on est en train de permettre en fait quelque chose qui pourrait conduire à une censure politique et qui va nuire au débat d'idées, qui est pourtant indispensable. Même si on n'est pas d'accord avec les idées, d'ailleurs, en question.
Oh, et pas que politique. Vous vous souvenez, l'époque, là, c'était il y a quelques mois, lorsque... quelqu'un sur ce compte Facebook avait mis l'origine du monde de Courbet et son compte avait été bloqué par Facebook, etc. Enfin, tu vois, parles de politique, mais c'est aussi une censure artistique, une censure.
Et puis on a mis plusieurs articles sur le sujet. Il y avait notamment une tribune dans le Figaro qui a été écrite, si je me trompe pas, par c'est un enseignant, c'est un prof, et oui, il reprend plein d'exemples dans le cas du mariage pour tous, dans le cas de l'antisémitisme, etc. Où il dit effectivement, il y a des idées qui sont malsaines et qui vont parfois être déguisées derrière des discours, mais dans le cas des gens qui s'opposent au mariage pour tous ou qui à l'heure actuelle s'opposent à la PMA pour les couples de femmes, ben, en fait, tu ne peux pas censurer ces gens, il faut quand même les écouter, même si tu n'es pas d'accord avec, ça fait partie du débat d'idées. Et voilà, donc il y a un gros problème là-dessus. L'autre problème, c'est que le délai de 24 heures et les sanctions financières qui sont encourues et qui sont assez énormes, ben, risquent de conduire à l'utilisation d'outils de censure automatisés, donc, dont on sait que ça ne marche pas, et risque d'entraîner une surcensure, parce qu'aucun employé ne va prendre le risque de faire courir une amende pareille à son employeur. Et dernier problème, c'est que la décision justement de cette sanction est confiée au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'occupe de la télé et de la radio, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec Internet. Et là, il y a plusieurs trucs en fait qui viennent un peu se percuter. Dans l'article justement de Libération, l'enseignant disait que bah, c'est une tentative d'atteindre à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Moi j'ai l'impression que le CSA, enfin apparemment ça fait des années que le CSA essaye de récupérer du pouvoir, parce qu'en fait je pense qu'ils sentent qu'ils sont en perte de vitesse, que la télé est un média qui est en train de mourir, que la radio c'est compliqué aussi, donc à mon avis ils essayent de récupérer des pouvoirs où ils peuvent pour survivre. Mais il y a un autre problème, c'est que là très récemment il y a eu une déclaration de Cédric O, donc le secrétaire d'État au numérique, qui incitait très très fortement les journalistes à s'organiser entre eux pour lutter contre les intox, faute de quoi c'est l'État qui interviendrait. Et puis si c'est l'État qui intervient, ils vont confier ça au CSA. Et donc le CSA petit à petit est en train de grappiller des trucs qui à la limite devraient être du domaine du CNIL, mais en aucun cas du CSA. Et puis, bah, petite cerise sur le gâteau, c'est que le débat et le projet est débattu en procédure accélérée, hein, donc de toute façon, dernier passage devant l'Assemblée nationale, tout ça, tout ça. Et il y avait un autre article qui était intéressant qui est paru hier, c'est que en Allemagne, une loi similaire a été votée en janvier 2018, et pour le moment, les chercheurs sont pas capables de prouver que ça a fonctionné. Voilà.
Ouais, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait, c'est plutôt moderniser l'État au sens. Aujourd'hui, on a des procédures judiciaires qui sont assez longues. Donc, il faudra imaginer une procédure judiciaire au niveau des 24 heures, quitte à pouvoir faire du rollback dessus.
Non, mais ce qui était dit dans, à la fois, en fait, par la Quadrature et à la fois dans l'article du Figaro, pardon, c'est que déjà, les institutions, enfin, les lois existent. Elles permettent en l'état de prioriser le traitement de ces informations-là. Elles permettent de revenir en arrière si tu te plantes. Mais surtout, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'investissement au niveau de la justice. Il n'y a pas de juge qui soit délégué.
Ouais, voilà.
Il n'y a pas de moyen de donner à la justice pour qu'elle puisse agir sur ça. Donc il n'y a pas de juge délégué à ce type de problème. Et donc, plutôt que d'investir dans la justice et de garder le contrôle sur justement sur la régulation de la liberté d'expression, on le confie à des acteurs privés. Mais ça rejoint, quand, si vous vous souvenez, on avait parlé, c'était avant qu'il s'en aille, Mounir Majoubi avait écrit une lettre justement sur les états, les réseaux sociaux et la lutte contre la haine, etc. Et c'était déjà le discours de dire on met toute la responsabilité sur les réseaux sociaux et puis alors nous, perché. Donc voilà, mais de toute façon, les premiers amendements ont été adoptés hier. Je pense que les autres sont en cours d'adoption et qu'on l'a joyeusement dans l'os. Voilà.
Good. On va passer aux outils d'épisode.
Ouais.
Moi, je me suis acheté un clavier mécanique. Avec pour ceux qui savent, le cherry bleu, donc c'est celui qui fait bien clic clic clic.
T'aimes pas les papillons,
ça me rappelle les vieux IBM.
D'ailleurs,
ils
commencent à péter, moi, le mien.
Les papillons qui sont abandonnés, t'as vu?
Ouais, c'est pour la vidéo. Moi, j'ai mon O qui écrit plusieurs fois O là en ce moment.
Donc, tu souffles un peu.
Ouais, j'ai commencé. Donc, c'est rigolo, on s'y fait assez vite. Effectivement, j'accélère en termes de vitesse. Et puis au bureau, c'est vrai qu'on a le coin développeur et le coin commercial, et donc on sent la différence. Et blablabla. C'est rigolo. C'est un peu compliqué d'en trouver un. Clavier keyboard, enfin QWERTY, pardon, qui fonctionne correctement avec les Macs, etc. Mais je mettrai la référence du mien. Quelqu'un a mis le guide définitif de SonarCube.
Puisqu'il y a une LTS.
On a badiné un petit peu avec SonarCube, mais.
Il y a une, ouais, il y a une LTS qui est sortie avec notamment. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec SonarCube. Je l'avais sur un projet et j'en ai pas eu d'autres depuis. Et il y a notamment, il y a le support de Kotlin, de Scala, de Ruby, de CSS, de Go, d'Apex. Je sais même pas ce que c'est Apex, mais bon. Maintenant, Sonar fait de l'analyse de pull request. Il fait de l'analyse des failles de sécu, y compris des failles d'injection, qui ça sont juste un enfer à détecter. Donc, si vous avez pas les moyens d'avoir une société privée qui fait de l'audit, et ben voilà, vous pouvez utiliser SonarCube et il fait même de la décoration. De pull request, du monitoring, allez voir, ils font plein de choses.
Voilà. Je me rappelle plus ce que c'est Apex, c'est pas
un truc
plus
lié
à la retraite des cadres.
Pas l'Apex.
Pas la retraite, là. Le chômage des cadres. Bon, là, c'est AX. Okay,
Je me rappelle plus. C'est une technologie. Bon, bref, c'est pas grave. Je trouve tout seul. Ah, Salesforce, ils ont pas leur langage
ou comme ça.
Ils ont un langage voilà qui est censé être plus simple pour les utilisateurs. Voilà, on va sauter la rubrique débutant, on la prendra pour la semaine la prochaine fois. Les conférences, le Jock Summer Camp à la rentrée le 13 septembre, DevFest Toulouse le 3 octobre.
À Toulouse donc.
Oui.
L'intervention.
Quel sens de l'intervention?
Jock Summer Camp à La Rochelle, mais je ne sais pas si je l'ai dit. DevFest Nantes, donc c'est à
Nantes.
Voilà, très bien. Le 21 et le 22 octobre.
Et la Vox
Microservice, donc à Microservice.
À Paris Microservice. Ouais. Le 21, 22, 23 octobre.
Voilà. Scala IO à Lyon. Avec, je crois qu'il y a une volonté de.
Un thème programmation fonctionnelle.
C'est ça. Thème programmation fonctionnelle. Il y a DevOps Belgique du 4 au 8 novembre, BDXIO le 15 novembre, DevOps D-Day 13 et 14 novembre, le CFP
est ouvert.
Est ouvert. Et Color en scène le 21 novembre 2019. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Désolé pour les petits bruits divers et variés, mais...
On a le micro d'ambiance.
Le micro d'ambiance. On l'avait entendu l'ambiance en plus de nos voix. Voilà.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.